Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je me disais, bon, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien, le texte partira peut-être aux oubliettes et au mieux, je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver. Mais en fait, quand je fais une rétrospective sur tout ce qui s'est passé pendant 2 ans avec ce spectacle, c'est juste dingue. Et je pense que j'aurais pas imaginé toutes les rencontres, toutes les scènes, tous les publics, les 2 fois où j'ai eu des trous de mémoire, des blancs, les aventures, le fou rire que j'ai pu avoir, et puis tout ce qui est autour de ça, en fait, toute l'énergie qu'on donne, en fait, on se sent un peu porté. La solution est en nous. La solution est en vous. Et au moment où vous serez prêt à vous écouter, de toute façon, tout coulera, puisque vous avez déjà la solution.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une femme exceptionnelle qui a su écouter sa petite voix depuis qu'elle est adolescente. J'ouvre une petite parenthèse pour vous remercier. Vous remercier pour tous vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux et sur Apple Podcasts. Cela me fait tellement chaud au cœur. Si vous souhaitez m'aider et soutenir le podcast, parlez-en à vos amis et abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est absolument énorme. Allez, je ferme la parenthèse. Depuis qu'elle est enfant, Valérie rêve d'être comédienne. Elle a du talent. Ses parents l'inscrivent donc à un cours de théâtre. À 18 ans, Valérie fait un pacte avec son père, obtenir un diplôme avant de voler, voler de ses propres ailes. Elle sort alors de l'ESCA, renforcée dans son projet. Elle enchaîne les petits boulots et les castings, et c'est à partir de 30 ans qu'elle vit pleinement de sa passion de comédienne. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Valérie Pastre.
Bonjour Valérie.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors, j'ai choisi une paire de baskets de la marque N'Go Shoes. C'est la paire de chaussures que je porte sur scène quand je joue mon spectacle. Mon spectacle qui s'appelle Namasté Beaucoup, c'est un spectacle que je qualifie un peu de d'éco-responsable, d'atypique, dans le sens où on parle beaucoup de thématiques d'écologie, avec humour évidemment. Et j'avais envie d'être cohérente de A à Z, et donc j'ai démarché cette marque nantaise que voilà, j'ai appris à connaître. Et ils m'ont tout de suite fait confiance et ils croyaient à fond dans le projet. Et du coup, il me chausse sur scène et du coup c'est un peu mes chaussures porte-bonheur. Et après j'en ai d'autres de leur marque, et maintenant quand je vais à un casting ou un projet important, voilà, j'ai toujours ma petite paire de N'Go Shoes au pied.
Super. Est-ce que tu peux nous raconter de là où est-ce que tu es née, là où est-ce que tu as grandi?
Je suis née à Rennes. Je revendique mon côté bretonne, ouais. Breton, pardon. Et j'ai grandi à Nantes après toute mon enfance, collège, lycée. Après, je suis partie étudier, faire l'ESCA à Angers. Donc, je suis restée du côté de l'Ouest. Après, j'ai fait Erasmus en Pologne, ce qui n'est pas très courant.
Ouais, c'est clair. Et pourquoi la Pologne?
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'avais choisi. En fait, il y avait des choix à faire. Je crois qu'en choix numéro 1, j'avais mis la Grèce, donc rien à voir. Ouais. J'ai eu mon choix numéro 2, mais j'avais mis au pif les autres choix parce que j'avais tellement envie d'aller en Grèce que je me disais non, mais c'est bon, j'irai au soleil. Et en fait, quand j'ai eu la Pologne, j'ai fait oh mon Dieu. Et en fait, c'était génial comme expérience parce que c'est marrant, c'est un pays proche. En même temps, la culture est hyper. différente et j'avais une voilà, je cohabitais avec une Polonaise hyper sympa qui m'a appris plein de choses et puis j'ai rencontré aussi enfin de toutes les nationalités là-bas et c'était vraiment top. Voilà, ouais. Donc un beau souvenir et après bah, j'ai fini mes études et j'ai passé 10 ans à Paris.
Ouais, ça on en reparlera après si
oui,
tu veux bien.
D'accord. Ok. Ah oui, je mets.
Pas de souci. Et du coup, juste pour commencer, du coup sur toi, quand tu étais enfant, quel type de petite fille t'étais?
C'est une bonne question. Faudrait demander à ma mère en fait. Je crois que j'étais une petite fille très joyeuse.
Ouais.
C'est ce que je vois des photos, ce qu'on me dit. J'ai tout de suite voulu être assez rapidement autonome. En fait, je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants.
Ok.
Et du coup, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, je sentais que j'avais aussi envie de grandir et d'être aussi à leur niveau.
Ouais.
Enfin, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs parce que quand on est la petite dernière, moi, les jeux de société, je faisais toujours la banque ou raconter les pions, enfin, des rôles qui servent à rien, en fait. J'avais pas le droit de jouer. Mais du coup, je sais pas, je pense que je m'inventais aussi pas mal d'histoires, j'écrivais pas mal. Je pense que j'avais aussi mon petit monde parce qu'après mes frères et sœurs, ils ont vite quitté la maison et je me suis retrouvée seule avec mes parents.
Ouais.
Et voilà, du coup, je pense que j'étais bien en tout cas dans mes baskets et je me sentais bien. Je me sentais aimée avec après les embrouilles des frères et sœurs, mais c'est normal.
Et c'était quoi tes rêves à cette époque-là quand tu étais petite?
Je voulais être danseuse, gymnaste, vétérinaire et après comédienne, c'est venu très vite parce que j'adorais me déguiser.
Ouais.
Et puis j'adorais jouer des rôles, voilà, des copines à chaque fois on s'inventait des histoires et après je me suis dit non mais c'est bon en fait, c'est ça que je veux faire, je veux être comédienne.
Ouais. Et c'était dit, quand t'as pris tes premiers cours de théâtre?
Non non, c'était avant.
Non. D'accord.
Et après ma mère m'a inscrite au théâtre. En me
ouais.
disant, bah, fais-en un hobby déjà. Oui, donc en fait, ce rêve de comédienne, c'est venu très, très rapidement. Et puis voilà, je continuais toujours à me déguiser, à maquiller, à m'inventer des histoires, à m'inventer des rôles. Et c'est ma grand-mère, en fait. Une fois, j'ai joué devant ma grand-mère.
Ouais.
Et c'est elle qui a soufflé à ma mère l'idée de peut-être m'inscrire à des cours de théâtre parce que ça lui avait plu, voilà.
Ouais.
Et moi, j'ai même pas pensé, donc voilà, j'étais hyper contente.
Alors, en même temps, quand on est petit, on sait même pas que ça existe, en fait.
Oui, et puis de toute façon, en fait, je disais que je voulais faire ça, mais en fait, je savais même pas exactement. Enfin, là, maintenant, quand je vois le chemin parcouru, je me dis, ah oui, non, mais mon rêve est complètement différent de la réalité, mais en fait, jamais j'aurais pu rêver mieux ou imaginer mieux, en fait. Donc,
ouais.
Voilà. Après, évidemment, j'ai dû faire face aux craintes familiales. Quand en fait ils voyaient que je lâchais pas, que j'avais vraiment envie de faire ça et que je voyais rien d'autre dans ma vie en fait.
Ouais. Parce que tes parents, ils faisaient quoi comme métier?
Alors ma maman, elle était professeure d'anglais.
Ouais.
Elle a arrêté à ma naissance parce que ça devenait un peu compliqué à gérer
ouais.
4 enfants. Et mon père, il était dans la finance, donc rien à
D'accord.
voir.
Ouais.
Donc en fait, c'était un monde qu'ils connaissaient pas du tout. Donc ils m'ont vraiment fortement encouragée à faire ça en hobby.
Ouais.
À ce que ça reste vraiment un plaisir, un loisir, mais surtout pas en faire mon métier parce que c'était tellement compliqué, il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre, tu te mets dans une galère, tu te rends pas compte, voilà.
Ouais.
Donc forcément les peurs des parents que maintenant je comprends, mais oui, du coup c'était un peu dur au début, ouais.
Comment tu vivais du coup?
Comment je vivais
Quand ils te disaient, bah non, mais ça sera juste un hobby, tu peux pas en faire un métier.
Ça me rendait un peu triste, mais en fait, je me dis non, mais en fait, moi, je ferais ça. Enfin, dans ma tête, c'était ça, et je me dis, bah non, mais en fait. Alors après, on a passé un deal avec mon père. c'était que voilà, je fais des études, j'ai un diplôme, et après, il me laisse faire ce que j'ai envie de faire.
Ouais.
Parce que lui, il était persuadé qu'à travers, donc j'ai fait une école de commerce, l'ESCA à Angers. Il était persuadé que en 5 ans, j'avais le temps de mûrir un autre projet, qu'il y avait plein de stages dans plein de milieux différents.
Que tu allais pouvoir rentrer dans les rangs, quoi.
Que j'allais pouvoir découvrir le milieu de l'entreprise, que j'allais pouvoir adorer le milieu de l'entreprise, voilà. Et en fait, plus je faisais de stages, plus ça me confortait dans l'idée que c'était pas fait pour moi, le milieu de l'entreprise, que je trouvais pas ma place. que la mentalité me convenait pas, que voilà, enfin pourtant il y avait des personnes très chouettes, hein, j'ai fait des belles rencontres, mais c'était pas un milieu voilà où à chaque fois ça me confortait dans l'idée, ok, bah moi après je serai comédienne. Après j'ai appris aussi, je reconnais, hein, j'ai appris plein de choses dans cette école de commerce qui me servent encore à l'heure actuelle et qui me, je pense qui m'ont donné un peu de bagage et des clés aussi pour décrocher mon téléphone, pour bien faire, enfin pour démarcher, pour faire plein de choses en fait, plein de projets privés ou professionnels, mais en tout cas voilà, j'ai, sur le moment ça a été dur parce que je suis allergique aux chiffres et je suis vraiment nulle en maths, en compta, en voilà, j'ai vraiment pas la logique, donc c'était vraiment dur, mais je préfère y repenser avec le souvenir, enfin avec des bons souvenirs, mais sur le moment ouais, les partiels c'était assez compliqué, ouais.
Et du coup, donc t'as été diplômée de l'ESCA. À la fin, du coup, t'étais entre guillemets libérée de ton obligation vis-à-vis de ton papa.
Oui, exactement. Ouais. En plus, j'ai fait un mémoire qui n'avait rien à voir avec l'ESCA. Je suis retombée dessus en triant des cartons. J'ai fait un truc sur le cinéma avec l'importance des acteurs bankable et des récompenses pour la réussite d'un film ou non. Donc en fait je pense qu'ils l'ont validé parce qu'ils en avaient, ils disaient d'accord, elle on l'a perdue de toute façon, elle ne fera pas autre chose. Ouais. Et oui, après oui, je me sentais libre. En même temps je me disais je ne sais pas comment ça se passe la suite. Ouais. Donc j'ai repris des cours à Paris.
Okay.
Au studio Pygmalion, et puis à côté de ça je travaillais à l'Argus de la presse, voilà, à mi-temps pour aussi travailler, faire des piges. Et puis petit à petit, après, j'ai commencé à faire des castings.
Et du coup, les premiers castings, à l'époque où tu étais à l'ESCA, est-ce que tu as continué à faire du théâtre?
Oui, j'ai continué, je crois, les deux premières années. Après, j'ai arrêté parce qu'on était souvent en stage, ou après, je suis partie en Erasmus. Et puis après il y a eu des 6 mois de stage, 1 an de stage, donc j'avais mis un peu une parenthèse. Et puis je pense que j'avais aussi besoin de vraiment de me poser peut-être inconsciemment la question. C'est pas l'entreprise qui t'attire, mais est-ce que c'est vraiment les planches et voilà, j'avais aussi besoin de peut-être de réfléchir un peu. Mais oui, je suis très contente du chemin parcouru en tout cas.
Et quand t'as, du coup, pour les études là, pour Pygmalion, c'est tes parents qui t'ont aidé ou c'est du coup c'est ton job à côté qui t'a permis de financer ta formation?
Alors mon père, je crois qu'il m'a offert les 2 premières années.
Ouais.
Et après,
parce que c'était combien de temps?
Je crois que c'était 3 ans.
D'accord.
Et après donc j'ai continué, et après j'ai fait d'autres formations avec Jack Walzer, c'est un coach américain. Et puis être comédien, c'est aussi se former éternellement pour avoir plus facilement accès à ses émotions, plus facilement accès à tout en fait. C'est un peu notre outil, c'est nous, donc c'est important de continuer à se former. Et après oui, c'était moi qui continuais parce que je ressentais le besoin. Puis on peut aussi, j'avais fait aussi d'autres stages de danse, de développement corporel, enfin tout ce qui peut aider dans la vie de comédienne.
Ouais. Et donc du coup, t'as pas décollé tout de suite parce que de toute façon, il y en a pas beaucoup des comédiens qui décollent tout de suite. Mmh. Au fur et à mesure, donc t'as pris des jobs alimentaires pour pouvoir faire ça en parallèle.
Oui, alors oui, j'ai eu beaucoup. J'ai passé pas mal de castings, donc j'ai eu pas mal de portes.
Ouais.
Et en fait, le casting en lui-même, c'est un exercice qui est complètement différent parce que on a quand même l'enjeu derrière. Ouais. Et on se met quand même inconsciemment une pression. Se dire, oh là là, si j'ai ce rôle-là, peut-être qu'il peut changer ma vie. Donc en fait, c'est dur de se dire, d'y aller à la cool en disant non mais j'ai pas de pression, vraiment je vis le moment présent, je suis disponible, je suis là. Alors que tu sais que ça peut potentiellement changer le cours des choses. Donc c'est très très compliqué à gérer le casting. Et moi c'était vraiment pas... En fait, tous les chouettes rôles que j'ai eus, il n'y avait pas de casting en fait.
Ouais.
Enfin, c'était des lectures, c'était une rencontre. Et du coup, j'étais un peu libérée de ça. Enfin, après, j'ai eu plein de, d'autres choses sur des castings, mais c'est vraiment pas un truc que j'adore.
Ouais.
Et oui, donc à côté de ça, effectivement, je bossais. Oui, j'ai fait énormément de petits boulots. Enfin, honnêtement, ouais. J'ai fait je me souviens parce que mes copines elles collectionnaient les photos, elles me prenaient en photo en me disant voilà, on a des dossiers sur toi. Quand j'étais hôtesse au salon de l'auto, j'ai fait la mission pièce jaune avec Bernadette Chirac, j'étais femme sandwich pour faire la promotion d'un. Et à un moment, j'ai une amie, une très bonne amie, une amie d'enfance qui m'a dit « Non mais Valérie, c'est plus possible là, les petits boulots. T'as bac plus 5, à bac plus 5, on fait pas ça quoi. » Et en fait, cette phrase-là de me dire de dire « Oui, non mais c'est vrai qu'il faudrait que je limite les choses », ça m'a donné vachement de force à me dire à passer des échelons supérieurs en disant « Non mais là, ça maintenant je refuse et puis je vais me donner encore plus les moyens de faire quelque chose que vraiment… vraiment, ça me permet de me donner confiance parce que c'est vrai qu'à faire des petits boulots et de vivre comme ça pendant un an ou deux, ça va. Mais après, on se dit, en fait, on peut vite perdre confiance en nous puis avoir une mauvaise estime de soi. Et puis, en fait, ça devient un cercle vicieux. Et puis après, voilà.
Et donc, du coup, quand ça a déclenché ça en toi. Et donc, qu'est-ce que tu as changé du coup fin...
Du coup, il y a une année où j'ai dit « Ok, j'arrête les petits boulots, vraiment, les trucs dégradants. » En fait, c'était de faire des choix, en fait, tout simplement, de pas dire oui à tout. Ouais. Et en fait, c'est dur parce que d'un autre côté, il y a l'aspect financier. Mais je me dis « Bon, non, c'est pas grave, je trouverai autre chose. Je vais faire plus de… » me donner les… En fait, après, j'avais un rituel du matin. Je me levais le matin, alors que j'avais pas de réveil, j'avais pas de travail, mais je me levais tous les matins, 8h30. Je prenais mon petit déj et j'envoyais 50 CV. Je démarchais pour les castings. J'envoyais à tout le monde. J'essayais de faire des rencontres, de provoquer en fait des rencontres, de boire des cafés avec des gens, d'être plus dans le relationnel en me disant peut-être que ça pourra m'apporter quelque chose. Mais et voilà, de changer deux trois petites choses. En fait, ça fait qu'on bascule. Même inconsciemment, de se dire, en fait, je vaut peut-être mieux que ça, quoi. Donc, de croire plus en soi. Voilà.
Ouais. Et du coup, ça a marché?
Du coup, alors, ça a marché, c'est un bien grand mot, mais ça a provoqué des super rencontres, d'autres projets, plus de travail. En fait, dans ce milieu-là, le travail, c'est vertueux, ça enchaîne le travail. Les gens disent « Ah, elle travaille, mais moi aussi, j'ai envie de travailler avec elle. » Donc, puis de dire que, d'avoir des rencontres aussi sympas, de parler avec des gens qui sont intéressants, qui sont bienveillants, de faire aussi de créer son cercle de confiance parce que ce milieu-là est assez spécial quand même. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la jalousie, on s'entraide, mais on s'entraide. C'est vrai qu'au départ, j'avais d'envoyer des castings à une amie qui est brune aux yeux marrons. Je sais très bien que de toute façon, on va pas se piquer de job. c'est vraiment. C'est sûr, on est beaucoup dans le milieu. Et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup aussi de personnes vraiment bienveillantes et qui se réjouissent quand les autres ont du travail. C'est ça qui est important. Je pense que quand on est bienveillant avec les autres, la bienveillance nous revient aussi. Voilà.
Ouais. Et quand à l'époque, t'as bossé à l'Argus de la presse notamment, quand tu postulais, t'avais quelle posture en fait
L'Argus de la presse, c'était un poste où en fait, je devais regarder des émissions spécifiques et rédiger des petites fiches de synthèse pour les clients. Voilà. Donc.
Mais en candidatant, tu avais quel. Enfin, tu leur as dit.
En candidatant, je leur ai dit, je veux un mi-temps et je veux. En fait, moi, je bossais le week-end chez eux. Parce que je leur disais, moi, la semaine, j'ai mes cours et j'ai des castings.
D'accord.
Donc, je bossais le week-end. Je crois que les horaires, c'était horrible. C'était genre 6h30, 13h30. quand je faisais une soirée le vendredi soir, je crois que je faisais des nuits blanches souvent. J'enchaînais en passant dans une boulangerie en prenant un sandwich à 6h du mat parce qu'il fallait que je tienne. Et en fait, avec du recul, enfin c'était Déjà, ça me permet de me tenir informée de l'actualité. Et puis, j'ai fait aussi des super rencontres. Voilà, il y en a, c'est encore mes amis aujourd'hui. On a tous évolué dans des domaines complètement différents. Mais on a tous, enfin, je me dis, on savait pourquoi on le faisait. Et c'est marrant parce que ce petit cercle-là, aujourd'hui, par exemple, il y avait Nastira, elle est journaliste, elle est écrivaine. Valentine, elle travaille dans le milieu de la culture. Enfin, on a tous eu en fait cette envie qui ne nous a pas quitté de savoir pourquoi on le faisait, pourquoi on était là. Ouais. En plus, ce poste, il était quand même, ça va, dans des petits boulots, enfin, il était assez intéressant au niveau intellectuel. Et du coup, voilà, c'était vraiment chouette, une chouette expérience. Voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, tu disais bon, que tu détestais les castings. Enfin, c'était vraiment pas le truc où tu t'éclatais. T'as été toi-même chargée de casting?
Oui. Oui, c'est marrant. Hein, du coup, de se retrouver de l'autre côté. Ouais, alors après, j'ai été chargée de casting pour plusieurs émissions. Alors, il y avait Super Nanny, qui est la plus connue. Après, il y avait des émissions sur les chaînes câblées. Ouais. Et puis, il y a eu des émissions voilà, qui sont pas très intéressantes. Enfin, c'était plus de la télé-réalité, mais sur les chaînes de la TNT. Et oui, je me suis retrouvée à trouver des candidats. Ah oui, j'ai fait 4 mariages pour Lune de Miel aussi. J'ai fait Qui veut épouser mon fils.
De la grande culture française.
Ouais, mais c'est ça qui m'a confortée dans l'idée de ne pas avoir de télé chez moi. Je me suis dit, mais en fait, je ne rate rien. Je vois l'envers du décor, ça me suffit. Et oui, se retrouver chargée de casting, c'est marrant parce que du coup, on dit, ah d'accord, je vois la candidature, je vois comment il est derrière. Et ouais. Oui, mais ça m'a, je veux pas dire que j'ai détesté faire ça parce que c'est faux et qu'au départ j'avais un peu de, voilà, j'étais un peu fière, j'étais de l'autre côté de la télé, je savais ce qui se passait dans les coulisses, j'ai des petites anecdotes croustillantes sur tout ce qui se passait. Mais ça m'a aussi permis de voir les limites, voilà, de ce qui se trame, puis comment les décisions sont prises au niveau de la production pour qu'on choisisse telle personne et pas telle autre et de me dire que, voilà, de toute façon, même si on réussit un casting, il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de nous. On ne saura jamais si c'est notre prestation ou si c'est parce qu'on est trop petite, trop blonde, pas assez blonde, ou si le producteur finalement il a complètement vrillé et changé d'idée. Donc en fait, voilà, il y a tellement de choses qui dépendent pas de nous dans la vie. Enfin, en tout cas, ce qui dépend de nous, le faire au mieux, mais ce qui dépend pas de nous, de se détacher de tout ça et de se dire que de toute façon. Voilà, c'est fait, on a donné le maximum et puis après, les dés sont jetés. Voilà.
Ouais. Du coup, j'imagine que pour toi, ça a dû être aussi, dans ton métier de comédienne, aussi intéressant de pouvoir te projeter et aussi là-dessus.
Oui, tout à fait. Et puis aussi de me dire, mais ça, je me le disais chaque jour, enfin, chaque matin quand je me lève, que en fait, j'ai la chance et enfin, je considère ça comme une chance parce que je suis assez sereine de ce point de vue-là, mais de me dire que tous les matins, en fait, je suis vraiment actrice de ma vie. C'est que si j'ai du boulot, c'est parce que j'ai fait la rencontre ou j'ai postulé au bon moment, ou j'ai passé le bon casting qui allait bien. Et de me dire qu'en fait, moi, tous les jours de ma vie, si ça se trouve, je peux demain avoir un... Enfin, j'en ai déjà eu hein, des beaux rôles, mais de me dire, voilà, ou monter mon spectacle, ou voilà, faire des rencontres. Enfin, il y a eu des rencontres vraiment... incroyable qu'on fait aussi changer ma vision des choses ou qui ont propulsé tout d'un coup, je pense notamment à mon spectacle. Ouais. Et voilà, moi de me dire que chaque jour que j'ai la chance de vivre, de me dire tous les matins, en fait, aujourd'hui, je vais me donner tous les moyens de démarcher, de regarder ce qu'il y a comme projet, quel réalisateur je pourrais contacter, même ne serait-ce que pour les rencontrer, en fait, c'est pas forcément en ayant justement une idée derrière la tête, mais de provoquer des rencontres, de pouvoir échanger, je pense que c'est très important, surtout dans l'époque à laquelle on est en ce moment.
C'est clair. Et à l'époque où t'enchaînais les petits boulots et tu faisais du coup des castings et des rencontres en parallèle, j'imagine que ça n'a pas dû être simple parce que t'avais tous tes copains qui étaient qui avaient fait les mêmes études que toi, donc qui commençaient à avoir des salaires un peu sympas. Et
oui, mais alors moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout branchée carrière ou enfin. Bien, en fait, j'étais contente pour eux hein, quand ils négociaient leur salaire. Je sentais que ça leur importait. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'anime en fait dans la vie. L'argent, c'est pas une. Je suis contente d'en avoir pour vivre décemment, mais c'est pas quelque chose où je me dis, enfin, gagner toujours plus. Mais pourquoi au final ? Enfin, c'est. Je suis pas du tout attachée à cette valeur là. Mais en tout cas, j'étais contente. Enfin, évidemment, j'étais contente pour eux. Enfin, en fait, mes amis de l'ESCA sont toujours mes amis aujourd'hui parce qu'il y a voilà, beaucoup d'autres choses derrière et puis les liens d'amitié sont hyper forts. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont changé de voie, qui ont pivoté ou voilà, qu'on choisit un chemin différent. Et en fait, on est assez nombreux dans ce cas-là. Et surtout dans ma spécialité, j'avais fait une spécialité communication. C'était un peu, on appelait ça la spécialité un peu, enfin, pipo, mais enfin, c'était la spécialité où en fait les gens voulaient ni faire de marketing, ni de finance. Donc en fait, on me disait, bon, bah, communication. Et en fait, dans ma classe, je me rends compte, on a quand même maintenant. Un autre promo qui est devenu qui fait du diabolo et qui joue au cirque totem. Donc c'est pas rien. On a un autre qui est musicien chanteur. Enfin, on est plein à avoir monté leurs entreprises. Enfin, en fait, on est plein à avoir choisi des chemins différents et je pense que je me dis bon, on était peut-être l'aspect en fait créative.
Ouais. Voilà. L'aspect qui écoutait sa petite voix et...
peut-être. Amusant.
Et à partir de quand, du coup, t'as senti... Enfin, t'as eu des rôles qui où tu t'es dit « Ah, waouh, je commence à accomplir mon rêve.
» En fait, dès que j'avais un contrat, une pub, n'importe quoi, un film institutionnel, un film web, j'étais « Ah, trop bien !» Enfin. Voilà, je commence à rentrer. Après, je crois que j'ai jamais mis tous mes œufs dans le même panier. J'avais envie aussi de remonter sur scène. Donc, je commençais aussi à faire du théâtre. Et c'est très, très différent. Parce qu'au départ, je me disais, non, je vais faire que de l'acting, que devant la caméra. Et en fait, tu te rends compte, c'est pas du tout le même jeu. Et puis, tu as beaucoup plus de spontanéité et de rapport avec le public quand tu es sur scène. Donc, c'est, et puis, ça commençait à me manquer. Donc j'ai refait des castings et j'ai eu je crois que c'était je sais plus les années ça devait être en 2010 2012 je sais plus que j'ai c'était une comédie qui s'appelait Putain de week-end donc une comédie de boulevard hein, comme son nom l'indique mais où j'ai joué avec des super partenaires et il y avait un très bon metteur en scène. Et ça m'a donné vraiment, je crois que j'avais fait ça, c'était tout un été, tout juillet, et c'était blindé, puis d'avoir des retours des gens qui étaient hyper ravis et tout, je me suis dit, c'est hyper cool aussi de jouer sur scène. Et à un moment, je me suis dit, ouais, c'est chouette, je suis contente, mais j'avais envie de donner plus de sens, en fait, à ce que je faisais. Et c'est là, et en même temps, ça intervenait au moment où je me posais aussi des questions sur ma vie, d'être plus cohérente aussi, parce que je suis assez. J'aime la nature, j'aime la planète sur laquelle on vit, et j'ai envie d'en prendre soin. Donc, je me posais aussi pas mal de questions sur, dans ma vie au jour le jour, comment je peux faire pour changer des petits gestes pour, qui me coûtent pas forcément beaucoup, mais qui. Si on est des milliards à les faire, peuvent un peu changer les choses. Et du coup, ça s'est arrivé en fait tout d'un coup dans cette recherche, cette quête de sens, de se sentir aussi plus aligné avec ce qu'on fait. Et j'ai commencé à écrire grâce à ma cousine qui m'a beaucoup inspirée. Je suis très proche d'elle et elle a 2 ans de plus que moi et elle, c'est un peu une avant-gardiste. Elle a toujours vécu vraiment... alignée avec ses valeurs, là elle est dans ses montagnes, elle est naturopathe, elle fabrique tout elle-même, elle fait des ateliers cuisine aussi, végétarien, vegan, de la cuisine comme elle appelle holistique, enfin vraiment qui nourrit le corps et l'esprit, elle fait ses cosmétiques, et moi je l'admire. Vraiment, je l'admire depuis hyper longtemps. Et je me suis dit, au départ, j'avais commencé à écrire des trucs, mais en mode blague sur elle. Et je me suis dit, non, mais en fait, faut que je dise que ça existe, mais faut que j'invente une histoire autour de ça.
Ouais.
J'avais commencé à gribouiller pas mal de choses. Je crois que ça a mis 4-5 ans à mûrir dans ma tête, à me dire, non, mais là, j'écris. En plus, c'est facile de dire qu'est-ce que tu fais en ce moment. J'écris. Voilà, au moins, tu fais quelque chose, personne te demande, tu dis, ah, d'accord, c'est bien. Mais en même temps, faut aussi monter sur scène et puis se confronter aussi au public et savoir si ça plaît. Et ça, c'était une autre, c'était très compliqué parce que je me disais, j'écris, mais en fait, je sais pas si un jour je jouerai ce spectacle, voilà.
De quoi t'avais peur à l'époque pour avoir mis autant de temps entre guillemets pour le sortir ce spectacle ?
Peur de la réaction des autres. Est-ce que mon propos est intelligent et intelligible ? Est-ce que je suis pas à côté de la plaque ? Est-ce que je suis pas toute seule à penser comme ça en fait ? Parce qu'en fait c'était très personnel. Je racontais, je parlais de ma cousine, je parlais de moi, je parlais de mes valeurs, on met beaucoup de soi, c'est différent, ouais, là, on s'étale, on est complètement, on est à nu.
Ouais.
Et du coup, c'est plus facile d'être derrière son ordinateur et de gribouiller et de... Et tu te dis, ouais, j'ai 18 pages, mais voilà, tu te dis, non, je sais pas ce que je vais en faire, mais un jour j'en ferai quelque chose. Et puis à un moment, faut se jeter à l'eau, quoi.
C'était quoi, du coup, le déclic pour te jeter à l'eau?
L'approche des 30 ans.
Ouais.
Ah, franchement, 30 ans, ça, ouais. Quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, je l'ai pas fait encore, donc 30 ans, c'est le moment.
Ouais.
Et aussi de me dire dans ma tête j'avais deux metteurs en scène en idée. Ouais. Je l'envoyais à deux metteurs en scène, une femme et qui était overbookée et à Thibaut Segouin sans le savoir un peu été l'élément déclencheur, hein. D'ailleurs je le remercie infiniment.
Ouais.
Parce que en fait j'avais été voir le spectacle de Ben à Avignon.
Ouais.
Et lui écrivait et mettait en scène Ben à l'époque, et moi j'adorais le côté décalé, et Ben il parlait aussi d'écologie mais complètement de manière décalée, puis c'était pas du tout la même chose. Et donc j'ai contacté Thibaut. Je lui ai envoyé mon texte et là j'ai pas eu de réponse pendant je sais pas, ça m'a semblé hyper long, je pense que c'était au moins 8 jours.
Ouais.
Les jours je regardais, j'étais oh là 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 là, j'étais c'est mort, voilà, je vais faire autre chose, je suis ratée. Et au bout de et 2 jours après il m'a répondu un truc hyper hyper drôle, hyper sincère. Il me dit je vais être honnête, je pensais vraiment que ça allait être pourri. Et finalement, il m'a pas écrit exactement ça, mais en gros, c'était je pensais vraiment pas, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu naze, et finalement, c'est cool. Donc, si tu veux, on se voit, on va boire un thé, machin. Ok. Donc, on s'est rencontrés. J'avais le cœur qui battait, mais à 100 à l'heure, je me disais, mais en fait, ça peut changer ma vie. Enfin, moi, j'étais dans un truc, hyper, hyper chouette, hyper, hyper cool, Thibaut, il est vraiment hyper bienveillant, les choses glissent, quoi. Et là, je me suis dit, le fait que j'avais visé cette personne-là et que ça se concrétise maintenant, moi, je crois beaucoup aux choses qui arrivent quand c'est le moment.
Mmh.
Et je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois que dans la vie, les choses arrivent au moment où on se sent prêt aussi. Mmh. Et du coup, j'étais prête, et en fait, les choses se sont faites hyper naturellement. Et après, donc, Thibaut, lui, il était beaucoup demandé, donc il a écrit aussi le film d'Alex Lutz.
Okay.
Et il m'a dit qu'il avait moins de temps, mais du coup, il m'a présenté une amie à lui, Caroline Sichose.
Ouais.
Et en fait, on a formé un espèce de trio, de duo, Caroline m'a beaucoup, beaucoup aidée et soutenue. Et après, de trio, on était ensemble sur la mise en scène.
Ouais.
Et voilà, ils m'ont aidée aussi à réécrire pas mal de choses, à rendre l'histoire vraiment plus dynamique, à travailler sur les transitions, Caro, elle m'a vachement aidée aussi sur le jeu, sur à créer le personnage. Enfin, ils ont été hyper présents pour moi et je les en remercie vraiment. Enfin, je crois que je les remercie, mais je les ai jamais remerciés. Voilà, donc là, ils pourront écouter d'avoir été vraiment. Ça a été des moteurs et des béquilles où je pouvais tout le temps compter sur eux. Quand j'avais des doutes ou voilà, quand je testais des nouvelles choses, parce que forcément on est voilà, on tremble hein, sur scène au tout début. Et...
Ouais, justement, enfin juste avant que je te demande comment ça s'est passé, avant que tu passes le premier jour sur scène, quand tu l'avais contacté, tu le connaissais de nom évidemment, mais est-ce que tu l'avais déjà rencontré est-ce qu'il lui te connaissait en fait?
Ah non, pas du tout.
Non, moi ouais, tu l'as fait en mode.
Mais tente, j'ai jeté mon texte voilà comme ça, je me suis je me disais bon, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver, rien, le texte partira peut-être aux oubliettes et au mieux je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver, mais en fait quand je fais une rétrospective sur tout ce qui s'est passé pendant 2 ans avec ce spectacle, enfin c'est juste dingue et je pense que j'aurais pas imaginé toutes les rencontres, toutes les scènes, tous les publics, les 2 fois où j'ai eu des trous de mémoire, des blancs, les aventures, le fou rire que j'ai pu avoir, et puis tout ce qui est autour de ça, en fait, toute l'énergie qu'on nous donne, en fait, on se sent un peu porté. Ouais. Et puis tout ce travail derrière, justement avec Caro et Thibaut, enfin, honnêtement, je crois que j'avais pas imaginé une seule fois tout ce que c'était. Et en fait, ça m'a complètement galvanisée et ça m'a donné des ailes pendant 2 ans. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Enfin, ouais. Ouais.
Et du coup, comment ça s'est passé la veille de la première?
J'étais pas bien du tout. j'ai fait mes débuts dans le plus petit théâtre parisien qui s'appelle la Petite Loge à Paris. Il y a beaucoup, beaucoup de comédiens qui ont fait leur début là-bas. Et en fait, c'est là où on se teste, on vient au rodage parce qu'en fait, je crois qu'il y a 19 ou 20 places maximum. Okay. Donc, même quand c'est pas complet, on a l'impression que c'est complet. Il suffit qu'il y ait 10 personnes, on se dit c'est bon, on joue. Et la scène est toute petite, donc il fallait refaire la mise en scène, le moins possible de déplacement. Ouais. Et puis du coup on a le rapport, enfin il y a pas de, on voit les gens,
t'as pas l'impression d'être sur la scène, t'es à côté, t'es à leur pied,
je joue dans les potes, puis c'est moi qui ouvrais les rideaux, donc coucou. Là, tu fais bonsoir, d'accord. Et juste avant, je tremblais. Hein. Je crois que j'avais fait une répète avec Caro, ça s'était pas du tout bien passé. J'avais des trous de mémoire tout le temps. Oh, j'étais pas bien. Ah non, mais ça, c'était à Paris. Mais là, pour la toute première que j'ai fait, ouais, c'était à Nantes. D'accord. Mais oui, c'était à Nantes. J'avais rencontré un directeur de théâtre. Il m'avait dit, j'ai une scène à te proposer. Là, on fait un partenariat. Ah oui, non, mais c'était n'importe, dans ma tête, c'était n'importe quoi. Il y avait 110 places. Putain, non, mais... Ah ouais, non, mais déjà, un, faut que je remplisse. Deux, j'ai pas joué là depuis 3 ans. J'étais pas bien. Je crois que je suis allée en mode toute la journée. J'ai passé ma journée sur cette scène où il y avait le mec de la technique, l'ingé son et lumière qui installait les lumières, les spots. J'étais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et je crois qu'avant de jouer, chose à ne vraiment pas faire, mais moi j'avais besoin de ça. Je crois que j'ai pris une pinte de bière.
Bah en fait, ce que tu me disais, vous avez le même metteur en scène que Chicandier. Lui, c'est une petite larmichette de whisky.
Mais sauf que ça, je l'ai fait une fois. Ouais. Et après, Caro m'a dit un truc très juste et je ne l'ai plus jamais refait. Mais j'avais besoin sur ce moment. Je tremblais tellement que je me disais, mais c'est pas possible. Caro m'a dit, être comédien, c'est comme être un sportif, un athlète, en fait. Avant de monter sur scène, faut avoir une vie, une hygiène de vie assez saine, en fait, pour se sentir bien dans son corps et surtout, être présente, être, donc voilà, je n'ai plus, quand elle m'a dit ça, je n'ai plus jamais rebu une goutte d'alcool avant d'entrer sur scène.
Oui, on précise le avant, ouais. Oui. Et ta cousine, comment elle a vécu le fait que t'écrives sur elle?
Bah, je crois bien parce qu'en fait, on a un super bon rapport et je lui en ai beaucoup parlé avant.
Ouais.
Et je lui ai envoyé mon texte. Je lui ai dit ce que tu m'autorises à jouer.
Ouais.
Et puis après, elle s'est prise au jeu parce qu'elle me donnait elle-même des idées.
Canon.
Elle dit ouais, ouais en ce moment, je fais ça. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait de bizarre. Je sais pas, elle était sur sa monnaie locale. Ou, ouais, en ce moment, j'étudie les ondes 5G. Enfin, moi, du coup, je suis toujours en hors ligne. Par exemple, je sais pas, elle m'avait dit que quand elle prenait des gens en covoiturage, elle leur demandait de se mettre en hors ligne. Tout le monde était en hors ligne dans la voiture. Je trouvais ça drôle, donc je l'ai mis dans le spectacle. Mais en fait, oui, mais elle, pour elle, c'est normal, en fait.
Ouais.
Oui, mais pour elle, c'est son mode de vie. Et puis, je sais pas, sur ses recettes, sur la lactofermentation, j'avais envie d'en parler. Enfin, sur plein de choses, en fait, qui sont un peu éloignées de notre quotidien, mais qui, elles, sont totalement normales. Et du coup, elle me raconte un peu. Et puis, même elle, quand elle teste des nouveaux trucs, c'est hyper éloigné de moi, mais je me renseigne. C'est génial. Par exemple, ouais. Le yoga du Cachemire, bah, je ne connaissais pas, mais elle est à fond là-dessus.
C'est quoi le yoga du Cachemire?
Il faudrait que tu tapes sur Google. Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais c'est un yoga qui est quand même très basé sur les mouvements lents.
Okay.
Tout est lent, tout est dans la
lenteur. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire du yoga avec un pull en Cachemire?
Non, pas du tout. Mais du coup, je trouvais ça drôle. Et on en a parlé dans le spectacle, effectivement. Je me dis, mais je comprends pas. Mais et elle a très très bien pris. Elle me soutient à fond, Marion. Et en fait, elle m'avait juste dit, oh ouais, est-ce que tu pourrais juste changer mon prénom?
Ouais.
Et en fait, j'ai essayé avec d'autres prénoms et ça marchait pas parce que moi, quand je l'appelle dans mon spectacle, j'ai vraiment sa tête, j'ai son image, et elle est là avec moi en fait.
Ouais.
Et en fait, on n'a pas le même nom de famille, donc je lui ai dit, est-ce que vraiment ça dérange? Parce que moi, ça m'aide énormément de t'appeler, voilà, par ton prénom. Et après, et elle l'a vu, elle m'a vu jouer.
Ouais.
Et ça l'a bien fait marrer. Donc voilà, je suis contente, quoi. Et les retours étaient hyper positifs et j'avais l'impression, voilà, avec ce spectacle, d'être complètement, de me sentir vraiment alignée. Voilà, j'avais un spectacle qui avait du sens pour moi, hyper personnel, et en même temps je trouvais des échos tout le temps, des gens qui me disaient à la fin du spectacle, oh, mais c'est génial, mais moi ça y est, là je commence à manger moins de viande, alors que je donne pas du tout de leçons ni de conseils, hein. Chacun fait bien ce qu'il veut, voilà, c'est tellement compliqué aujourd'hui déjà avec de notre quotidien, mais voilà, et puis il y en a qui me disaient, qui m'écrivaient après, ah mais ça y est, je me suis mise à la lessive maison, c'est génial, ou des petites choses, et du coup je me dis bon bah c'est cool si ça peut encourager des gens à passer à l'action ou à tester des trucs, enfin en fait j'avais des messages tout le temps et de gens qui se sentaient enfin moins seuls.
Ouais.
Je disais, mais ah là là, c'est génial un spectacle comme ça. Faut vraiment que mes parents aillent te voir parce que moi, ils comprennent pas du tout pourquoi je fais des trucs moi-même ou pourquoi je me bats contre le plastique. Voilà, donc j'avais voilà. C'est pas du tout. Je considère pas du tout mon spectacle. Il est pas du tout. Enfin, on s'est un peu éloigné de ce truc. Il est pas militant.
Ouais.
Dans le sens où. Voilà, il est très ouvert. Moi, je dis, je joue le personnage d'une Parisienne qui pète les plombs, qui fait un burn-out de sa vie parisienne, qui va chez sa cousine et qui découvre un monde parallèle.
Ouais.
Et donc, voilà, j'étaye, voilà, je dis tout ce que je découvre. Mais il y a aussi plein de choses, voilà, de questions que je me pose, de remises en question, voilà, donc, qui peuvent parler.
Ouais, c'est vu avec un prisme, en effet, de Parisienne que tu étais à l'époque. Et ça, du coup, c'était tu l'as lancé en 2018?
Ouais, c'était en décembre 2017 la première. Oui,
d'accord.
Ça. Ouais.
Et donc du coup, t'étais à l'époque, tu vivais encore à Paris?
Oui, je vivais à Paris et j'avais un pied à terre à Nantes. C'est un peu compliqué, mais oui, parce que je vivais encore à Paris. Et puis c'était plus simple à Paris de toute façon pour voilà pour j'ai eu la chance de jouer pendant je sais plus si j'ai fait 2 ou 3 saisons à la petite loge, mais c'était génial pour se roder, pour tester des nouvelles choses, Voilà, d'ailleurs, je remercie infiniment Perrine et Mélissa qui m'ont vraiment soutenue, qui ont cru en ce spectacle. Et puis voilà, c'était vraiment top. Et après, grâce à cette lancée à Paris, eh ben, j'ai pu faire des tournées, des marchés, plein de théâtres en région et rencontrer du coup plein de publics différents. C'était génial.
Ouais. Du coup, tu l'as fait pendant 2 ans ?
Oui.
Ouais.
Ouais, pendant 2 ans.
Et donc, ans, là, c'est la fin de la tournée.
J'ai arrêté. Ma dernière, là, j'ai joué. Ça me paraît si loin. J'ai joué la dernière le 14 février, le jour de la Saint-Valentin,
ouais.
À Nantes. Et puis après, de toute façon, je partais en congé maternité.
Ouais.
Donc, je me sentais vraiment grosse là, sur scène pour le coup. Je me sentais
moins. Parce que du coup, c'était ce que t'as arrêté. Enfin, t'as arrêté. T'as pris ton congé maternité au moment entre guillemets légal.
Oui, bah c'est ça. C'était mon congé maternité débutait en mars, pile avec le confinement.
Ouais.
Voilà, donc j'avais l'impression que tout le monde était en congé maternité en même temps que moi sur ce premier confinement. Et je m'étais dit, non, au départ, on avait parlé avec mes metteurs en scène, on s'était dit que je reprendrais en septembre et que ça me laissait le temps de rebosser de mon côté, de voilà. Et j'étais hyper motivée hein, pour. On s'était dit oui, enfin. Moi, j'avais démarché des productions, des attachés de presse pour donner encore une autre ampleur au spectacle. Ouais. On était hyper, hyper motivés. Et puis, le confinement est arrivé.
Ouais, les théâtres ont fermé.
Les théâtres ont fermé. Ouais. Puis, un bébé est arrivé. Puis, au mois de septembre, je me suis dit, j'ai commencé à reprendre des contacts, mais ils me disaient que la période était hyper, hyper compliquée.
Ouais.
Et puis ils programmaient ceux qui avaient déprogrammé du coup pendant le premier confinement. Donc en fait les programmations des théâtres c'est souvent 6 mois avant. Donc je m'étais dit bon ce sera pour fin 2020.
Ouais.
Et en fait le deuxième confinement et là du coup je me dis bon c'est peut-être un signe. D'une page qui se tourne et d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. Voilà, je pense avec beaucoup de philosophie parce que y a des choses. En fait, il y a des choses où je me sens l'énergie, la force de me battre en me disant non, mais c'est pas terminé, j'ai encore des choses à dire sur scène, à écrire et tout. Et il y a des choses où je pense que quand je lâche, finalement, que je me sens bien, je me dis c'est peut-être le moment, c'était peut-être un beau chapitre et qu'il y a d'autres belles choses qui vont arriver. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ou peut-être que je me dis pas que c'est définitivement fermé. Peut-être que dans un an, je vais complètement le remanier avec la nouvelle personne que je suis devenue et avec des nouveaux sujets. Mais là, en tout cas, pour le moment, c'est mieux pour mon mental et rester dans une énergie positive de me dire, pour l'instant, c'est en pause et puis... on passe à autre chose.
Et puis c'est surtout que j'imagine que jouer plusieurs soirs par semaine quand on est une jeune maman, ça doit pas être ce qui est le plus facile non plus, quoi.
Oui, je l'ai pas fait, donc je peux pas te dire, mais effectivement, je me posais la question. C'est pas simple, hein, je pense au début. Ouais. Même là, j'ai travaillé au CHU de Nantes. Parce qu'on a la chance à Nantes d'avoir un CHU qui a une équipe de comédiens où on forme les internes en médecine et les généticiens à l'empathie.
Génial.
Avec les patients et au relationnel. Donc, on est formés, on a des scénarios et donc on joue des patients. Et même là, on commence assez tôt le matin et l'organisation que ça demande quand on est une jeune maman, c'est vrai qu'il faut toujours jongler avec les agendas.
Ouais.
Les places en crèche. Moi, dès qu'il y a un enfant qui est malade, je saute sur l'occasion. C'est vraiment... c'est une logistique qui n'est pas simple tous les jours, mais on fait comme on peut. Quoi.
Ouais. Parce que là, ça y est, maintenant, ça y est, tu vis à 100% à Nantes.
Oui.
T'as plus besoin de faire les allers-retours.
Je le dis pas... il y a beaucoup d'agences, je pense qu'ils ne le savent pas, parce que j'ai toujours une adresse à Paris. Parce que quand on leur dit qu'on habite à Nantes, c'est oulala, ça va être compliqué.
Il y a un truc génial qui s'appelle le TGV.
Oui, mais ça leur fait moins peur qu'on habite en banlieue parisienne avec des grèves de RER qu'à Nantes avec un TGV qui marche. Mais bon, donc non, mais
ça c'est fou, hein, parce que c'est vrai. Enfin, hein, moi, un truc dont je me rappelle à l'époque, mon mari a créé sa boîte à Marseille. C'était il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Et au moment de se dire où est-ce qu'on domicilie l'entreprise, avec son associé, ils se sont dit, alors que les bureaux étaient à Marseille, les deux vivaient à Marseille, ils ont domicilié à Paris. Parce qu'ils se sont dit que ça allait être, entre guillemets, plus crédible et que les boîtes parisiennes allaient se dire que ça allait être compliqué de bosser avec une boîte qui était basée à Marseille. Alors qu'en fait, enfin, ça, il y a encore vachement de, ouais, de psychologique sur tout ça qui est, qui est fou, quoi.
Mais ouais. Bah oui, non, mais ouais. Même là, tu vois, de me dire, bah, j'ai encore une adresse où je demande encore à mes copines qui sont à Paris parfois d'avoir mes contrats envoyés chez eux. Ouais. D'être obligée de mentir pour avoir un boulot en disant comme ça je mets toutes les chances de mon côté, c'est bah c'est dommage, hein. Mais bon, malheureusement, ouais. Après quand j'ai des relations de travail ou quand c'est des studios par exemple de voix off où je travaille beaucoup avec eux, ils le savent, il y a plus de problème. Mais ouais, c'est vrai qu'au début quand c'est des personnes qu'on connaît pas, et après en même temps je me dis bah ah non, ça m'a quand même aussi permis d'élargir mon réseau. Il y a quand même il y a plein d'opportunités de travail intéressantes maintenant, parce que je suis aussi voix off, je fais de la voix off depuis 5-6 ans.
Ouais.
Et du coup, il y a pas mal de studios dans l'Ouest, à Paris, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir quand même plein d'opportunités de travail à côté.
Ouais. Mmh. Et du coup, à partir de quand tu as commencé à vivre de ta passion ?
Alors à ne faire que ça, ouais. je pense à bah 30 ans. Ouais.
Ouais.
À 30 ans, ça a été un vrai déclic, hein, ce 30 ans.
C'est là, c'est 40, toi c'était 30.
Ouais. Oui, parce que moi je me suis toujours dit en sortant de l'ESCA, je me donne 5 ans, dans 5 ans je fais un bilan. Donc on est sorti de l'ESCA, j'avais 23 ans je crois, et à 28 ans j'ai fait un bilan. Ah bah j'étais pas bien, hein. Je voyais tout ce que j'avais fait, mais je voyais pas les choses. Je suis d'une nature assez impatiente, et du coup c'était dur de, ça m'a vachement appris à prendre sur moi, à me dire que oui, il faut du temps, et surtout je pense que j'étais beaucoup à l'époque dans la comparaison.
Ouais.
De regarder ce que mes copines comédiennes, ah là là, elles bossent plus, ah là là, on a le même physique et en fait c'est elle qui est prise tout le temps. Enfin, et c'est des choses en fait qui, déjà, j'ai appris à me détacher de tout ça. En fait, déjà la comparaison, ça fait mal et ça sert à rien. Puis ouais. Chacun a son chemin de vie différent, mais c'est hyper dur à la base de pas se comparer, surtout dans ces métiers-là. Et du coup, oui, ça m'a... Donc, premier bilan à 28 ans, deuxième bilan à 30 ans. Je me suis dit, non, mais à 30 ans, c'est bon, faut que ça... Voilà, Enfin, déjà, à 28 ans, je me disais, bon, je suis contente parce que je ne me considère plus comme une galérienne. Donc, il y avait des petits pas de franchis, mais ça prend beaucoup de temps, hein, dans ce métier. Et je compare souvent ça, comme dans le métier de monter sa boîte. En fait, être comédienne, c'est un peu monter sa boîte parce que c'est toi qui fais tout aussi.
Ouais.
Tu fais ton CV, tu fais ta compta, tu fais tes rendez-vous. En fait, tu peux... Tout repose sur toi. Et c'est vrai que c'est... Bah, d'un côté, c'est hyper positif parce que c'est d'être son moteur, ouais. De dire qu'on a des comptes à rendre à personne. Et de l'autre côté, ça peut être parfois un peu stressant, un peu flippant en disant « Non, mais là, bah, là c'est un peu chaud, quoi. »
Ouais.
Mais et après oui, en fait je pense que ben c'est à 28 ou 29 ans où j'ai eu pour la première fois mon statut d'intermittente.
Ouais.
Ou un peu, ouais, 28 ans je pense, et là
pour pouvoir l'avoir, il faut cumuler un certain nombre d'heures travaillées, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est 507 heures en 12 mois, après ils l'ont fait en 10 mois, maintenant ça revient en 12 mois. Enfin, alors ça peut paraître pas beaucoup, hein, 507 heures, mais en fait c'est ça veut dire 5 cachets par mois et 5 jours de boulot par mois. Bah, quand on est comédien, c'est beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de temps où on passe en répétition qui sont pas payés, où on passe à passer des castings pas payés, la création c'est pas payé, enfin, tout le boulot derrière d'écriture. En fait, je comprends, hein, les gens qui ont l'image de comédiens qui font pas grand-chose et tout, mais c'est vraiment, enfin, il y a tellement de choses derrière qu'on fait, et ou même de projets bénévoles, de dire, bah non, en fait, là, les gens, ils ont pas d'argent, mais j'ai envie de le soutenir, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de participer à ton projet de court-métrage parce que ça parle, je sais pas, des violences faites aux femmes, ou que ça parle de la maladie et que ça me touche, ou n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait gratuitement, où on met, on dit, bah non, parce que ça me touche et ça m'importe. Et en fait, c'est important aussi, je trouve, dans nos métiers, on a de la chance de pouvoir porter des messages, de pouvoir toucher les gens d'une autre manière, et aussi je trouve ça important de se dire qu'on fait pas ça que pour l'argent, quoi. Enfin, de dire que ça, c'est, voilà, on fait parce que le projet nous touche et nous parle, et on le fait avec plaisir parce qu'on a envie de soutenir quelque chose qui nous tient à cœur. Je trouve ça beau, et je trouve ça voilà, ça fait sens, et puis ça donne un peu foi en l'humanité. Voilà.
Ouais.
Après, vas-y. Non, après, je pense, parce que ma mère me disait souvent, non, mais tu vas pas vivre de bénévolat, Valérie, tu ne peux pas vivre gratuitement. Donc voilà.
Ouais, c'est un grand sujet. Ouais. Et du coup, justement, tes parents, comment ils ont vécu toute cette phase, bah, justement, où c'était, bah, les petits boulots, et puis après l'ascension?
Je sais pas trop. Avec mon père, on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Parce que lui, il ne connaît pas du tout ce milieu-là. Et puis, je sais pas du tout. Même moi, je disais, voilà, quand j'avais du travail, mais je racontais, j'étais assez évasive. Je suis beaucoup plus proche de ma mère, où là, je lui racontais beaucoup de choses. Et elle, je pense qu'elle arrivait à bien gérer ses peurs parce qu'elle me les transmettait pas.
Ouais.
Même si parfois je sentais un peu de oui, non, mais là, Valérie, enfin voilà, elle s'inquiète comme je pense les parents du monde peuvent s'inquiéter pour leurs enfants au début, parce qu'ils disent, bah là maintenant c'est une adulte et faut qu'elle bosse, et voilà. Et puis je pense que là, le fait d'avoir mon spectacle, de le jouer, et puis d'avoir fait tellement de choses en parallèle, voilà, je pense qu'ils sont plutôt sereins maintenant là-dessus. Mais c'est vrai que non, mon père, c'était plutôt l'aspect financier. Il me demandait toujours, il me dit, ça va, t'as un peu d'argent sur ton compte quand même. Mais c'était pas du tout sur voilà, sur,
ouais, sur, il avait besoin d'être rassuré, quoi.
Ouais.
Et si demain, peut-être pas tout de suite, parce que ta fille, elle a 7 mois et demi, quand elle a 15 ans, 16 ans, elle te dit, bah maman, moi, je veux faire un métier qui la norme ne considère pas comme sérieux, est-ce que tu as une idée de comment tu l'accompagneras?
Bah, je lui dis, c'est marrant, parce que même quand elle dort ou quand elle est dans mes bras, parfois je lui dis, bah moi, je suis là pour te guider dans la vie, je suis là pour être à tes côtés, et tu peux faire tout ce que tu veux, je serai toujours là. Enfin, je suis vraiment dans l'optique, dans une, je sais pas, je sais à quel point ça peut être difficile et compliqué, je sais, mais en fait, il n'y a pas un métier qui est plus facile qu'un autre. Donc je me dis, peu importe, en fait, je sais même pas, mais je me dis même, enfin, sortir des chemins tracé, enfin, en fait, moi, je considère que c'est un peu, enfin, c'est une chance, en fait, que moi, j'ai eue. Et je me dis, bah, n'importe quel, non, en fait, peu importe les choix ou la voie qu'elle choisira, en fait, je lui dirai jamais non, en fait. Moi, ce que j'ai eu de mes parents, qui avaient peur, donc ils exprimaient non au début, jamais je lui dirai non, c'est pas possible, ou non, ça, je te le conseille pas.
Ouais.
C'est vraiment le truc où je me dis, ça, je veux pas me louper là-dessus.
Ouais.
Je dirais toujours, je serai à l'écoute et j'essaierai de l'accompagner au mieux, et je serai toujours là, mais je dirais jamais que c'est une idée stupide, ou que ça ramène pas d'argent. Enfin, de transmettre ces angoisses de peur de parents, ça, c'est un truc que j'ai pas du tout envie de reproduire, en tout cas.
Ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
Ça nécessite un peu de réflexion. La réussite, c'est se sentir bien. Je trouve que la réussite aujourd'hui, on met beaucoup de choses. En plus, dans une école de commerce, on nous apprend beaucoup la réussite au point de vue financier et carriériste. Et moi, je suis pas du tout attachée là-dessus. Enfin, je dirais plutôt, voilà, moi, je suis plus dans la réussite personnelle. Et pour moi, la réussite personnelle, c'est avoir déjà un cercle d'amis à toute épreuve sur qui on peut compter. C'est plus de la réussite pour moi, c'est plus l'intelligence du cœur qui parle, c'est être avoir accès à soi-même. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en développement personnel, alors je suis très branchée là-dessus. Je dirais que c'est être bien entouré, se sentir bien dans sa tête, ce qui est déjà beaucoup. Et après, sur les projets, moi, j'ai eu aussi la chance d'avoir réalisé des projets sportifs.
Ouais, justement, je voulais qu'on en parle.
Et ça, je considère ça comme une vraie réussite parce que c'était des gros, gros challenges. Et même moi, à la base, en m'y lançant, je savais pas du tout où ça allait me mener. Et du coup, c'est plutôt, pour moi, c'est plein de petites choses de la vie. Que j'ai pu mener à bien, qui m'ont aussi fait prendre conscience que je pouvais dépasser mes limites ou que j'étais capable de plein de choses, et du coup qui m'ont complètement amené à des réflexions sur qu'est-ce que c'est la vie, et voilà. Et là, je considère, oui, c'est les projets sportifs comme des réussites. Ouais.
C'est quoi, ça a été quoi, du coup, le premier projet sportif que tu as fait?
Ça s'appelle le Rallye Aïcha des Gazelles.
Ouais.
C'est un raid dans le désert marocain. On est juste à la boussole et avec des cartes en noir et blanc de 1970. C'est un projet, on est parti en 2013 avec une amie, Lucie, ouais, que j'embrasse. Et elle m'en a parlé, en fait, ça s'est fait complètement... Mais moi, il ne faut pas me lancer des défis parce que je dis oui à tout et en plus, après, je m'accroche. Plus on me dit non, plus j'ai envie de défoncer des portes. Donc, c'était un énorme challenge parce que on n'avait jamais conduit de 4x4. Bon, après, j'ai changé ma vision là-dessus. Je ne le ferai plus aujourd'hui par rapport à mes combats écologiques. Mais voilà, c'était une aventure de dingue. Elle m'en a parlé un soir au resto, de ce rallye. Elle m'a montré des images. Et je fais « Waouh, c'est complètement dingue ouais. !» C'est un truc 100% féminin, c'est sur la solidarité, c'est très engagé, il y a une caravane médicale qui nous suit. Enfin, il y avait plein de valeurs qui me parlaient à ce moment-là et je lui ai dit « Vas-y, go, on y va. » Et je crois que je suis assez... c'est dans mon tempérament aussi. Je me dis c'est aussi ce qui me permet de vivre aussi. C'est que je lâche pas, quoi. Je lâche rien et j'y vais. Et en fait, je crois qu'il fallait un budget de 40 000 euros. C'est déjà une inscription à 14 000 euros. Après, il fallait l'allocation du 4x4, plus les équipements. Enfin, tout ça, ajouté, c'était énorme le budget. Non, ça devait être 30 000 euros. Et on a fait tellement de trucs. Alors, on s'appelait les Braise Gazelle pour porter. Parce qu'elle aussi, elle a des origines bretonnes. Donc, c'est dit, on va jouer la carte de la Bretagne. J'ai fait des week-ends en Bretagne, à démarcher les entreprises bretonnes, à se prendre des vents, à se prendre des portes, à se faire des interviews dans Presse Océan, Ouest France, Braise Magazine, tout ce que tu veux. Enfin, et c'est fou parce que tu te rends compte à quel point tu peux avoir finalement des ressources insoupçonnées et de l'énergie pour des choses vraiment qui te tiennent à cœur. Et parfois, oui, c'était dur parce qu'en fait, on a dû reporter d'un an notre participation parce qu'on n'avait toujours pas l'argent. Et au bout d'un an, on s'est dit, ma pote Lucie, elle lui dit, non, mais Val, on va peut-être pas... Enfin, est-ce qu'on fait vraiment? Parce que là, on n'a pas de... Enfin, là, je vois pas le truc. Et je fais, ah non, mais moi, je lâche pas, quoi. Non, mais là, ça fait un an, c'est bon, la prochaine fois, on est sur la ligne de départ, quoi. Donc, Et donc, ça nous a mis 2 ans de préparation pour 15 jours. Ça, tu te dis, mais c'est complètement dingue. En plus, tu manges à la fin, tu manges Rallye des Gazelles, tu dors Rallye des Gazelles, tu ne penses qu'à ça. Moi, j'allais à tous les événements bretons à Paris avec elle, parce qu'il y a une grosse communauté bretonne. On s'infiltrait, on allait dans des dîners, les gens hallucinaient. Et puis finalement, notre pugnacité a vraiment payé parce que on y a cru. Et 8 jours avant le départ, donc on avait avancé les frais, on s'était dit, il nous manque 8000 balles. Ouais. C'est pas grave, on est sur la ligne de départ, là, de toute façon. Au pire, on loue nos apparts à Paris.
Ouais.
On se disait, ouais, ton appart est mieux que le mien. Enfin, on louera nos apparts, on dormira chez l'une, chez l'autre, et puis on se remboursera comme ça. Donc, on était vraiment motivés. Et 8 jours avant, on reçoit un coup de téléphone dans le métro, on entendait un mot sur deux, et on avait filé notre dossier à un mec avocat, qu'on avait parlé à un de ses clients. Et le client a dit, je vous donne 8000 euros.
Génial. Pile poil le montant,
en fait,
quoi.
Enfin... Oui, et en fait, on était dans le métro et en fait, on était en train de trembler. On dit, non, on a mal entendu. En fait, c'est 1000 euros, c'est pas 8000, c'est 1000. Faut qu'on arrête. Et il nous avait donné rendez-vous après, place de l'Opéra, dans un super hôtel pour signer le contrat. Il y avait toute son équipe, c'est pour être partenaire principal. On a dit, mais merde, faut qu'on floque tout le 4x4. On a 5 jours pour le faire. Et c'était effectivement cette somme qui nous manquait.
C'est fou.
Et on s'est dit, incroyable, incroyable. Ouais. Enfin, voilà. Donc, on était folle, quoi. On était dingue.
Donc, voilà. Et t'as fait aussi le raid Amazon?
Ouais, je suis repartie 2 ans après. Alors, pour le coup, c'était vraiment plus sportif. C'était vraiment du running, du vélo et du canoë.
Ouais.
Pendant 5 jours.
T'avais déjà fait du VTT à haute dose et du canoë?
Moi, j'avais fait de l'aviron.
Ouais.
Donc, j'aime bien ce truc. Mais alors, mes deux amis, Mathilde et Claire, détestaient ramer. Donc, sur l'épreuve, elle m'avait mis... j'étais barreuse et en fait, j'ai fait que hurler sur elle. « Allez, les filles, on lâche rien, allez, va, allez !» Et je donnais la cadence. Et j'ai fait ça pendant 1h30, j'avais plus de voix. Mais j'étais en mode coach. Enfin, voilà. Je pense que je suis assez... je suis dans le naturel, je pense, sur des défis comme ça. Je suis... c'est pas compétitif, mais j'ai envie de tout donner, quoi. De dire, on a donné le maximum et voilà. Et en fait, je me dis, ça se trouve... Ça s'interprète différemment dans ma vie de tous les jours, mais j'ai ce moteur en fait en moi qui m'aide, je pense, à rien lâcher. Voilà. Et d'ailleurs, après, dans tous nos mails qu'on s'envoyait, parce que pareil, le raid Amazon, il fallait retrouver des sponsors, c'était différent. Et à chaque fois, je signais, allez les filles, on ne lâche rien, quoi. On ne lâche rien, on n'a rien lâché. et voilà, on a mis peut-être 1 an à trouver les sponsors, les partenaires. Et on a pu partir. On était les braises d'Amazon, on était toujours sur la Bretagne.
On change pas une équipe qui gagne.
Voilà, on se disait, on s'est trouvé. On était chacune. Enfin, elles avaient aussi des attaches en Bretagne, mais elles étaient moins là-dessus. Mais je disais non, mais faut qu'on joue sur la Bretagne parce que la Bretagne, ça porte. Et puis une communauté. Enfin, et puis j'avais un storytelling, qui pouvait plaire aux partenaires. Et voilà. Et puis là, c'est marrant. Ça fera 2 ans. On est parti avec une autre amie. Donc j'ai fait tout mon cercle d'amis sportifs.
Ouais.
On est parti participer au Finland Trophy avec Elodie, une amie bretonne. Donc là, on était je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais c'était aussi sur la Bretagne. Voilà.
Et c'était en Laponie, ça.
C'était en Laponie.
Ouais.
Et du coup, c'était vraiment chouette parce que, c'était aussi, c'était les conditions météorologiques. Enfin, c'était là pour le coup, c'était vraiment est-ce que notre corps qui n'a jamais couru. Ouais. Là, à un moment, il y avait un ressenti à moins 36 degrés.
Ok.
Donc là, c'était comment notre corps peut faire en fait tout simplement pour courir avec le froid.
Donc du coup c'était de la course à pied
C'était course à pied, fat bike, il y avait du ski de fond aussi.
Ouais.
Et des raquettes. Enfin en fait le premier jour tu courais, hop, tu chaussais les raquettes. Alors il y en avait qui couraient avec des raquettes. On a fait au début, on a fait « Non, c'est trop galère ». On déchaussait les raquettes, hop, on courait. Après, il y avait l'épreuve, une autre épreuve, c'était il y en a une qui faisait du vélo et l'autre qui courait. Donc au départ, on avait prévu d'échanger. Ouais. Et au final, Élodie, ma très bonne coéquipière, s'était fait mal le premier jour. Enfin, elle avait des douleurs quand elle courait. Donc elle a fait du vélo pendant toute l'épreuve, et moi j'étais pas préparée psychologiquement à courir encore les 14 ou 15 kilomètres. J'étais ah là là, faut tenir. Et en fait, c'est challenge, c'est tellement, ça donne tellement de force pour la suite.
Ouais.
C'est fou, hein, de se lancer des défis et des épreuves. Enfin, moi, en fait, ça me fait vibrer et j'arrête pas de me dire, bon, c'est quoi mon prochain défi? En fait, c'est quoi mon prochain challenge?
Ouais.
Parce que, en fait, je me rends compte, c'est que j'ai besoin de ça, de me prouver des choses aussi, de me dire que je suis capable pour après dans la vie de tous les jours, quand j'ai des petits coups de mou, de me dire non mais attends, t'as réussi à faire ça. Enfin,
ouais.
Les ressources, tu les as en toi. Mais c'est juste qu'il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Mais et puis même, en fait, c'est là, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'était des raids au féminin.
Ouais.
Et de rencontrer aussi plein de femmes de tous les âges avec des parcours hyper différents. Enfin, c'est des belles leçons de vie aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un côté humain derrière, au-delà du côté sportif, et c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ouais.
Et du coup, quand tu as fait ces challenges, comment ils ont réagi, ton entourage, surtout pour le premier?
Alors, le premier, quand j'ai dit ça, mon père, il m'a dit non. Mon père,
avec
il a dit un projet, il me dit non. Ouais. Bah, c'était en 2013.
Ouais.
Donc, je suis nulle en maths, non, mais faut pas me demander mes âges. J'avais 27 ans.
D'accord.
Mais en fait, c'est marrant parce que mon père, il me dit souvent non, et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un peu du coup, je n'arrête pas de me dire, bah, de toute façon, les noms aujourd'hui, moi, je considère ça vraiment comme des ok, bah, si, je vais le faire parce que tu m'as dit non.
Ouais.
Et en fait, je me dis, bah, dans ma vie, tous les jours, bon, il y a des trucs où, effectivement, on me dit non, je vais pas me défoncer, mais il y a un non où je me dis, bah, en fait, si, ouais. Je vais te prouver que si, je vais le faire.
Ouais.
Donc ouais, on était jeunes et mon entourage il regardait ça un peu d'un œil un peu loin, donc bon, on va regarder, ouais. Et puis en fait, c'était drôle parce que ils sont venus, il y avait ma sœur, il y avait ma mère sur la ligne de départ à place du Trocadéro pour le rallye des gazelles, et il y avait mon père aussi qui est venu, c'était assez émouvant, quoi, du coup de se dire en fait, elles sont, ma famille est là, quoi. Et ouais. En fait, tous les jours, en fait, on pouvait recevoir du courrier. En fait, on avait des balises et on pouvait voir les petits points se déplacer, pour les amis, les entourages, et on recevait le courrier tous les soirs.
Franchement.
Et mon frère, en fait, il n'a pas bossé pendant 8 jours. Il actualisait toutes les heures et il nous envoyait des mails. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes coincés? Pourquoi ça bouge plus? Vous êtes pris un mouton? Enfin, et en fait, on s'est rendu compte que nos familles, elles étaient hyper soutenantes, ouais, et hyper présentes derrière, quoi. Donc,
ça voilà. Me fait penser à mon frère qui a fait le marathon de New York, j'avais une amie aussi qui le faisait la même année. Et, ouais. Et pareil, bon, pour le coup, c'était moins long, hein, mais pendant, je sais pas, 3 heures, on était en train de les suivre sur le GPS pour savoir, en disant, mais tiens, il ralentit, mais non, mais vas-y.
Non, mais c'est clair. Et c'est fou parce qu'on se dit, finalement, même quand l'entourage il est un peu sceptique ou un peu même carrément pas d'accord,
ouais,
au final, quand t'as pris ta décision et que t'y vas, tu te rends compte que ils sont quand même là, quoi. Enfin, c'est ça qui est important, je pense. Et même si nous, enfin notre famille, enfin par rapport à mes frères, on est assez pudique sur les sentiments.
Ouais.
De recevoir des mails, des messages comme ça, on se dit, non, mais ils sont là, tout le monde est là, c'est juste que t'as pas forcément, tu les exprimes pas forcément pareil, tes ouais, sentiments, mais ouais, c'est important, ouais.
Et ce qui est fou, c'est que, tu vois, quand tu me dis que tu vas, que t'aimes tous ces challenges et tout, et en fait, je pense que c'est génial que t'aies ce trait de caractère vu ton métier, parce que c'est un métier où c'est jamais, rien n'est jamais acquis, en fait.
Mmh. Ouais. Bah oui, il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les challenges sportifs, mon métier. Enfin, ouais, c'est clair que, bah, en fait, c'est, bah, ces challenges-là que j'ai eu la chance de faire, mais, enfin, je me dis, bah, en fait, on s'est vraiment donné les moyens. Enfin, on a vraiment ramé. On a sorti tout ce qu'on pouvait en ressources, en énergie, en tout, en fait, pour trouver des partenaires, trouver des soutiens, pour s'entraîner aussi, parce qu'au niveau sportif, faut aussi avoir. Enfin, je me souviens pour le Raid Amazon, on se complétait vachement. On était trois, puis Claire, elle est très très sportive et elle nous avait fait un planning. Ouais. C'était notre coach sportive. Ouais. Moi, j'étais la coach en mode sponsor, et puis Mathilde, elle pouvait s'occuper de tout ce qui était les contrats, l'aspect administratif. Elle était très hyper carrée. Ouais. Mais du coup, on était hyper complémentaires, et c'est vraiment chouette aussi de faire des aventures comme ça avec ses amis, parce que en fait on se redécouvre,
ouais,
et on partage des choses complètement ouais, incroyables, dingues, et en fait ça crée du lien, enfin vraiment différemment. Et aujourd'hui c'est mes amis, mais on a vécu ce truc en plus,
ouais,
que personne ne pourra nous enlever et qui est hyper précieux. Et on dit, bah, c'est hyper chouette de cette redécouverte de cette manière d'avoir vécu ça, quoi. C'est vraiment cool.
Et du coup, aujourd'hui, donc, tu vis de quoi? Donc, t'as des voix off,
Oui.
Tu fais du coaching aussi pour des dirigeants?
Oui, j'en ai fait un peu. J'en fais moins maintenant, parce que à un moment, j'avais beaucoup de choses et je voulais un peu me recentrer.
Ouais.
Je pense que c'est un peu une force de vouloir faire plein de choses, et en même temps, à un moment, faut aussi dire non, mais qu'est-ce qui est important, et de prendre le temps de dire vers où on veut aller. Donc les voix off, oui, j'en fais beaucoup et j'aime vraiment beaucoup ça.
Ouais.
Et pareil, en fait, c'est des choses qui me sont arrivées, parce que j'avais pas du tout cette idée de faire des voix off. Et un jour, c'est mon prof de théâtre au studio Pygmalion qui m'a dit, Valérie, t'as tout le temps la voix cassée. C'est vrai que j'ai une période de ma vie où j'étais même hyper souvent aphone,
ouais,
et mes parents pensaient que c'était parce que je faisais trop la fête et que je criais trop, et voilà. Et en fait, j'ai vu une super phoniatre qui m'a dit qu'en fait non, j'avais des nodules, donc c'était un défaut en fait de respiration, et à force de forcer d'avoir une mauvaise respiration, de mal parler, voilà. Donc j'ai fait la rééducation de la voix.
Ouais.
Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un stage de voix off, vu qu'une fois par an, quand tu es comédien, que tu as ton statut, tu peux faire une formation. Et j'ai fait un stage qui s'est hyper bien passé, j'ai adoré, et l'intervenant principal m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais déjà bosser en studio. Ah bon, ok. Et en fait, j'ai hésité. En fait, pour démarcher, il faut une maquette. Une maquette, ça coûte de l'argent. Donc, à chaque fois, c'est la question, ok, est-ce que je mets mon argent là-dedans?
Ouais.
Je me suis dit, bon, ok, là, je vais au bout du truc. J'ai fait la formation, j'ai fait une maquette.
Ouais.
Donc, j'avais mes outils. Je me suis inscrite sur le site Casting Machine, qui regroupe des milliers de voix off. Donc là, tu te dis, bon, je suis un petit poisson noyé au milieu de l'océan. Et finalement j'ai commencé à bosser comme ça. Puis après j'ai démarché. Alors là j'avais fait une liste. Quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout. Donc j'avais fait la liste de tous les studios à Paris d'enregistrement. Ouais. Je les ai tous contactés avec des mails personnalisés, avec un petit mot sympa, une petite photo, mes petites maquettes, un petit je peux passer, j'habite à côté, on peut boire le café. Voilà. J'ai démarché comme ça, avec d'envoyer des CV, des choses comme ça, tous les jours, même mes maquettes, mes voix off et tout. Et puis au bout de 3 mois, ça a commencé à bien prendre. Et puis alors au départ, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en studio, parce qu'en fait c'était tellement facile. Au bout de 2 prises, ils me disaient, c'est super. Ah oui, mais non, mais je peux pas avoir un contrat et partir au bout d'une demi-heure, quoi. Et en fait, je me sentais pas bien, je me sentais pas légitime, et je me dis, ça peut pas être si simple que ça. Donc, j'ai quand même continué à avoir des cours de chant, et puis je fais aussi maintenant beaucoup de voix d'enfant.
Ouais.
Donc, j'essaie de moduler, j'essaie de.
Ça fait quoi là, si tu nous parles là en mode voix d'enfant?
Bah, je vais parler comme ça, et puis je vais... Voilà, ça... Après, ça peut en faire beaucoup d'autres, mais... Enfin, voilà. C'est plein de... Enfin, c'est de moduler, c'est de... Puis je fais des voix de petits garçons aussi, parce que souvent, c'est les femmes qui font des voix de petits garçons.
Ah bon oui, d'accord. Et... Oui, en même temps, mais c'est cohérent, ouais.
Ouais, parce que les petits garçons n'ont pas mué. Ouais. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça, et puis ça a bien pris, et puis j'ai travaillé pour... sur des beaux projets, donc je me disais... Bah, c'est chouette, donc voilà, ouais. Je suis contente. Enfin, voilà, là, après, j'ai aussi fait les choses, je me dis, bah, pour que ça marche, évidemment. Mais, ouais. Mais ça aurait pu ne pas prendre et ne pas marcher, et je me suis dit, mais au moins, j'ai toujours ce truc en moi de me dire, bah, je vais au bout des choses. Ouais. Si ça marche pas, c'est que ça devait pas, c'était pas pour moi, que ça devait pas se passer comme ça. Et puis, si ça marche, bah, tant mieux, et puis je continue, voilà.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Valérie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
C'est une bonne question. Elle dirait, ah là là, c'est cool, t'es allée au bout de tes rêves. Et en même temps, tu pensais vraiment pas que ce serait ça, la vraie vie de comédienne.
Ouais.
Parce que moi, à 6 ans, je voyais la scène, les paillettes, voilà, tu joues, tu fanfaronnes. Et puis, bah, le travail derrière, c'est beaucoup de travail, d'investissement, de remise en question, de plein de choses. Mais je pense que la petite fille de 6 ans, ouais, elle dirait qu'elle est assez contente de voir le résultat maintenant.
Ouais. On dit que quand il y a des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, à toi, du coup, tes renoncements?
C'est marrant, oui. Parce qu'on m'a souvent dit choisir, c'est renoncer. Et moi, au départ, quand on m'a dit ça, j'ai fait non, c'est faux. C'est faux, je peux pas choisir et je renoncerai pas. Et du coup, je sais pas quoi dire à cette phrase parce que si j'ai renoncé une fois à un projet que j'avais, un projet qui... Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. J'ai eu du mal à... Et en même temps, c'était bien que ça m'arrive parce que j'ai vraiment, du coup, vécu ça comme un renoncement, voire un échec dans ma vie. Et après, j'ai lu... Ça, c'était une course sportive, en fait.
OK.
Je voulais, à force de faire des... À force de faire des raids, des challenges comme ça, voilà, je me suis dit, OK, maintenant, je vais faire ma propre course. Je vais créer mon propre... voilà, un énorme truc hein, à Paris, okay. Avec... j'ai imaginé 10 000 personnes. J'avais des marchés, j'avais des partenaires, plein de choses. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Pour plein de raisons, la personne qui j'étais associée finalement ça l'a pas fait et puis finalement des partenaires sont partis, ouais. Donc en fait ça, c'était plein de petites choses et je me disais non mais c'est quand même bizarre, ça fait quand même beaucoup et à un moment c'est vrai que je m'accrochais et je me disais non mais en fait non, enfin en fait ça me faisait mal et ouais. Pendant que je m'accrochais à ce projet, ben, j'avançais pas sur mes autres projets perso, et puis j'avais mis mon métier de comédienne, ça faisait 6 mois où je dis non, mais je fais la course, et puis après je reprends, mais en fait, non, ça l'a pas fait. Et, j'ai fait un stage de communication transformative, ouais. Pour m'en remettre. Moi, j'adore tout ce qui est développement personnel, hein, mais j'adore tester, j'adore comprendre en fait l'être humain dans toute sa, ouais. complexité, comment on réagit face aux événements, puis pourquoi ça nous touche, et puis ce que ça dit aussi de nous, que voilà comment on est, et puis d'apprendre à mieux se connaître.
Ouais.
Et j'ai lu un livre qui m'a sauvée parce que vraiment j'avais vraiment du mal à me dire. Enfin pour moi le mot échec c'est dur à entendre. Ouais. Le mot échoué. Ou le mot « Ah, ça, tu l'as pas fait. Ah, bah, t'as échoué. Oh, » ouais. Qu'est-ce que c'est dur. Et en même temps, c'est très français. Ouais. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est bien d'échouer.
Bien parce sûr, que c'est un petit peu plus. Ouais.
Voilà, tu rebondis, tu fais autre chose, ouais. T'as des autres opportunités qui vont arriver. Enfin, oh. Et en fait, ce livre m'a sauvée. Alors,
c'est quoi ce livre?
Ça s'appelle « Les vertus de l'échec ».
Ouais.
Tu connais?
Ouais, je ne l'ai pas lu, mais je connais de nom, ouais.
De Charles Pépin. Hein, ouais. Alors, ce livre, je l'ai dévoré et je me suis dit, mais oui. Et en fait, et ça m'a permis, mais vraiment de, bah, d'accepter tout simplement que ce projet ne se fasse pas.
Ouais.
Et de me dire qu'en même temps, il m'avait permis bah, de rencontrer plein de personnes et voilà, de me dire que j'avais pu avancer, enfin quand même connaître comment c'est d'être organisateur, de passer à participant à organisateur, ouais. Et puis voilà, et de faire le point un peu sur ça. Et donc voilà, c'était un renoncement, mais maintenant je dirais que c'est plutôt un joli renoncement.
Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer du coup dans toute ta vie par rapport au fait d'écouter ta petite voix?
De me demander toujours si j'étais au bon endroit au bon moment et de me sentir légitime.
Ouais. On dit que le syndrome de l'imposteur, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que les imposteurs qui ne l'ont pas.
Ah, mais c'est bien, c'est rassurant. Ouais. c'est ça, la petite voix parfois, oui, dit des choses. Bon, moi je suis quand même, je pense que je fais un métier qui correspond à ma personnalité et j'ai vachement de chance là-dessus parce que je suis hyper optimiste tout le temps. Je suis hyper positive, même en fait quand j'ai vraiment des journées de quand ça va pas aller, peut-être une heure ou deux.
Ouais.
Je vais faire un cours de yoga, je vais aller courir dans la nature, je vais prendre un moment pour moi, et hop, ça va repartir. Ouais. En fait, mes rebonds sont très rapides, réguliers. Je touche pas souvent le fond de la piscine, mais j'arrive vraiment vite à prendre de l'oxygène, ouais. À repartir. Et ça, je trouve que c'est une chance que j'ai inouïe dans ce métier-là, quoi, parce que sinon, on peut vite, c'est vrai, avoir un moral dans les chaussettes, quoi.
Ouais. T'es comme tu disais, très optimiste, mais j'imagine que t'as quand même des peurs. C'est quoi tes peurs à toi?
Alors, mes peurs, elles ont changé, elles ont évolué avec le temps.
Ouais.
Parce que... Avant, j'avais peur de pas avoir de travail. Maintenant, non, c'est pas cette peur-là. Je sais pas. Enfin, en fait, là, j'arrête pas de me dire, en fait, on sait pas à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine. Je préfère vivre au jour le jour et le moment présent, parce qu'en fait, sinon, je vais angoisser. Et j'ai pas très envie d'angoisser. Enfin, j'ai pas très envie de me poser des questions sur ce que ça va être l'année prochaine. Donc j'essaye au maximum de me dire chaque jour je le prends vraiment au moment présent, qu'est-ce que je peux faire de chouette pour moi, ou voilà, de nouveaux projets, ou de réfléchir à d'autres choses, et du coup me libérer de certaines peurs. Alors qu'est-ce que ça pourrait être, mes peurs? C'est vrai que peut-être que je suis un peu trop optimiste, parce que j'ai pas beaucoup de peurs. J'arrête pas de dire à chaque fois dans ton truc, souvent je me dis non mais ça va aller, ou là ça va le faire, ou même quand j'ai pas trop de projets, je me dis non mais je vais à un moment, je vais avoir une idée, enfin tout ça va rouler. Donc ce serait plutôt je sais pas, la peur serait plutôt au niveau personnel de perdre de perdre un proche, ou de vraiment de choses qui me touchent personnellement, mais pas forcément, pas du tout dans le milieu artistique.
Ouais.
Pas trop, j'essaye de me dire que de me dire que de toute façon les choses bougent, on est tous connectés, on est dans un flow, il y a l'univers autour de nous qui nous envoie des choses, j'essaye au maximum d'être dans cette optique-là, voilà, que si on dégage des ondes positives, il peut nous arriver que du positif dans la vie.
C'est clair. Et d'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure, dans ton one woman show, dans ton seul en scène en français, c'est le, donc une personne qui a fait un burn-out. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire du coup sur le burn-out?
Alors, il fallait un moment romancer un peu l'histoire pour que ça ait beaucoup plus d'impact. Donc moi j'ai pas fait de burn-out, de vrai burn-out, mais à un moment j'en avais vraiment vraiment marre et d'être directrice ou chargée de casting.
Ouais.
Et j'en avais tellement marre que ça s'exprimait vraiment dans mon corps. J'avais mal au ventre, j'étais à faune, je pouvais pas décrocher le téléphone. Donc je me dis, je ne peux plus. Ouais. Et oui, j'en avais marre de cette vie parisienne, mais j'ai pas fait de vrai burn-out à proprement parler. Après, il fallait vraiment que voilà, Caro et Thibaut m'ont beaucoup aidé dans la réécriture pour rendre le spectacle voilà, fallait être plus percutant.
Ouais.
Pour qu'il y ait un avant et un après, ouais. Et que les gens voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent me voir, des spectateurs, en me disant oh, là, moi aussi j'ai fait un burn-out, et ils vont me dire ah, mais moi je ne je connais pas, enfin je peux essayer de comprendre, mais je connais pas exactement,
ouais,
j'en ai pas fait, voilà.
Tant mieux
oui,
ouais.
Mais du coup ouais, voilà. c'est un spectacle Oui, bah c'est dommage que là j'ai pas d'actualité, mais c'est un beau spectacle. Hein.
J'ai vu vraiment un court passage que j'ai trouvé sur un site en faisant des recherches sur toi. Je le mettrai dans le lien du blog. Enfin, parce que j'étais là, j'aurais bien aimé avoir le spectacle en entier.
Ouais, bah en fait c'était mon projet de faire une captation. C'était le projet de la rentrée.
Bon,
bah,
d'accord.
Il y a pas de captation encore, mais peut-être. Non, mais voilà. Pour l'instant, il est en pause. On verra de quoi demain sera fait.
Ouais. Voilà. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ?
Bah, de mon parcours. Je suis fière de la personne que je suis devenue, je pense. Je suis fière de vivre de ma passion, je suis fière de plein de choses, voilà. Des liens d'amitié, de la maman que je suis en train de devenir, parce que c'est un vrai truc nouveau,
ouais.
Voilà, plein de choses, mais c'est vrai que là, la maternité ça éveille plein de choses nouvelles, et aussi ça permet aussi de prendre beaucoup de recul sur aussi pas mal de sujets.
Ouais c'est sûr. Si tu croises quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ton histoire, mais qui voit que tu as fait un one woman show pendant 2 ans, qui a cartonné et que tu fais plein de voix off, hein, que tu vis aujourd'hui de ta passion, et qui te dit que tu en es là exclusivement grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ?
Moi, je ne sais pas ce que je répondrais, parce que moi je sais tout le travail qu'il y a derrière. Après, je crois pas à la chance. Je crois qu'il y a une toute petite. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas de la chance, mais c'est une partie des événements, des je sais pas, des planètes alignées à un moment donné qui font que ça marche.
Ouais.
Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas de la chance à l'état pur, parce que non, il y a du travail derrière. Et puis, par exemple, Thibaut, moi, s'il me disait non sur ma mise en scène, j'avais personne. Hein, est-ce que je l'aurais fait, ce projet? Je sais pas. Est-ce que j'aurais été démarcher quelqu'un? Est-ce que, du coup, le spectacle aurait été ce qu'il a aujourd'hui? Non, je crois pas. Mmh. Donc, non, c'est pas de la chance. C'est des énergies qui se rencontrent au moment où elles doivent se rencontrer. Voilà ce que je répondrais.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que, du coup, tu aimerais donner aujourd'hui?
Il y a une phrase que je me dis souvent. Enfin, il y a plusieurs phrases. Je suis très citation. Je lis beaucoup de citations le matin au réveil.
Ouais.
Des citations, ou même sur Instagram, par exemple, la loi de l'attraction. Tous les jours, il y a un texte. Moi, ça me permet de me mettre dans un mood, dans une bonne humeur et dans un truc très positif. Je me nourris de choses positives. Et là, en ce moment, je sais pas, je dirais... il y a quelque chose, il y a une phrase, c'est « la solution est en nous ». Voilà. Peu importe les conseils que vous allez recevoir et entendre, souvent on demande conseil, mais en fait on a déjà la réponse à l'intérieur de nous, sauf qu'on n'ose pas s'écouter, ou qu'on ne peut pas s'écouter, ou que c'est trop dur de s'écouter, parce qu'il y a trop de freins, il y a trop de choses derrière qui se jouent. Et en fait, voilà, moi je dirais, la solution est en nous, la solution est en vous. Et au moment où vous serez prêt à vous écouter, de toute façon, tout coulera, puisque vous avez déjà la solution.
Ouais, c'est marrant parce que tu vois, la loi de l'attraction, moi j'ai vraiment découvert ça pendant le premier confinement où j'ai lu beaucoup de choses dessus et tout. Et donc je l'ai expérimenté. Mais je l'ai expérimenté sur des trucs du type jouer au Uno avec ma famille. Je l'ai expérimenté là récemment. On est en train d'acheter une maison et la galère, c'est qu'il n'y a pas de parking et que c'est un quartier mais ingarable. Et il y a un parking qui appartient à un immeuble qui est juste en face de la maison. Et le truc, si tu veux, c'est avoir une place en deux. Enfin, c'est juste impossible, il y a 5 places. Et je me suis visualisée en train de conduire ma voiture et rentrer la place dans le parking. Donc, on n'est pas encore propriétaire de la maison, mais on a une place de parking dans ce parking-là, quoi. Et donc, dans ma famille, c'est la grande blague. Et mes copains, ils se foutent de moi en mode, bah oui, non, mais c'est sûr, c'est la loi de l'attraction, tout ça. Enfin, genre, ils se foutent de ma gueule. Mais n'empêche que c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est...
Oui, bah non, mais moi j'y crois à fond. Hein. De toute façon, tout ce qui est la visualisation et choses comme ça, ça marche. Hein. C'est les sportifs avant de, il y en a beaucoup hein, qui font de la visualisation se mettre dans un état d'esprit de je vais gagner, je vais remporter ce truc. Et moi j'en fais de la visualisation j'en fais pas mal pour les castings, pour les rôles. En visualisant, c'était pareil, c'est un mec, je sais pas, je l'ai rencontré comme ça et il en faisait. Et il m'a donné deux cours. Enfin, c'était des rencontres plutôt. Ouais. Et voilà, sur les choses que je pouvais mettre en place en me disant, voilà, tu vas visualiser comment t'es habillé pour ce casting, la pièce dans laquelle tu te trouves, dans quel état d'esprit tu es. Et en fait, effectivement, comme le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer, et ben, on y est beaucoup plus serein et au final, ça marche. Hein,
ça a d'ailleurs prouvé scientifiquement que l'imagination est plus forte que la volonté, en fait.
Ah oui, ça m'étonne pas.
Et du coup, on dit que le combo imagination plus volonté, il y a des potentiels miracles qui apparaissent en fait.
Ouais, c'est fou, hein. Ouais.
Mais c'est drôle que tu parles des sportifs parce que du coup, justement, c'est ce que je rétorquais à mes amis qui se foutaient de moi en disant mais regardez, tous les grands sportifs le font et là ils m'ont dit oui, eux c'est normal. Bah ouais, mais pourquoi nous on peut pas l'appliquer à notre propre quotidien en fait.
Oui, je pense que si chacun prenait le temps, ça comme la méditation, hein, ce que dit mon prof de yoga, si chacun méditait 5 minutes par jour, il y aurait la paix dans le monde. Mais oui, c'est des petites choses, des petits exercices, c'est clair.
C'est quoi tes prochains défis?
Mon prochain défi, j'en ai pas, mais j'en ai tellement en même temps dans ma tête. Alors, je dirais pas que c'est des défis, mais je dirais de continuer à vivre le plus possible en adéquation avec mes valeurs, puisque j'en ai pas parlé, mais l'écologie, c'est vraiment ça me tient vraiment à cœur. J'essaye vraiment de tout faire, et c'est pas facile tous les jours, mais voilà, je sais que ça va pas changer le monde, mais moi, ça me permet de me dire que je fais ma petite part de colibri. Pour essayer de préserver au maximum, de continuer dans cette voie-là. Par exemple, enfin c'est bête, tu vois, mais ça demande de l'énergie de ouf, mais là pour faire mes cadeaux pour mes nièces, je fais tout d'occasion, donc Vinted, Le Bon Coin.
Tu sais qu'il faut que je vais faire un peu de pub pour Nathalie que je suis en fait dans En Chemin. C'est le format du podcast où je suis les personnes qui sont en train de changer de vie. Et Nathalie a lancé Little Pop. Et Little Pop, c'est la mode éco-responsable. Et je t'enverrai le lien, puis je mettrai le lien aussi sur le blog. Et en fait, alors c'est soit des vêtements d'occasion, c'est un mix en fait, elle crée des malles avec des vêtements d'occasion et des vêtements pour les qui issus de marques éco-responsables. Et donc du coup, tu peux habiller tes enfants bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a lancé maintenant le bébé, parce qu'avant, elle faisait que les âges un peu plus élevés. Donc tu pourras aller sur Little Pop pour tes neveux, nièces et ta fille.
Oui, j'ai récupéré toutes les fringues. Pour l'instant, j'ai rien acheté en vêtements pour ma fille, tellement on a récupéré. Mais oui, effectivement, non, mais c'est vrai, hein, c'est fou, c'est un budget, puis ça grandit tellement vite, on se dit
c'est assez frustrant même.
Mais c'est clair, après on me dit c'est un enfant, ça pollue. Moi j'ai eu cette réflexion, t'es écolo, mais en même temps tu fais un enfant. Ce qui pollue, c'est les produits que tu utilises, ou c'est là depuis quelques mois on est aux couches lavables. Et c'était un beau défi que je m'étais lancé. Finalement, ça fait moins peur que ça en a l'air. Voilà, mais c'est pareil, c'est des petites habitudes à changer. Mais en fait, les habitudes, c'est dur de changer ses habitudes de consommation. C'est ça, en fait, le plus dur. Je sais plus, j'avais lu qu'il fallait 3 semaines, en fait, d'intégration, même
c'est
dans ta
21
tête.
21 jours.
Voilà, 21 jours. Ouais. Voilà. Et puis pareil, faire les petits pots maison, les machins, ça me fait plaisir, mais d'un autre côté, c'est de l'énergie, puis je pourrais faire autre chose à côté, hein. Je pourrais aller au supermarché, prendre la nourriture, enfin voilà. Mais il y a ce côté, c'est pareil pour l'allaitement, hein. L'allaitement, je trouve que c'est un acte écologique, hein.
Ouais. Ouais, bah, c'est sûr, bah, clairement, ouais.
Et du coup, il y a plein de choses, donc voilà, continuer dans mes lignées écologiques, à faire du mieux que je peux chaque jour, ça c'est un beau défi. Après un défi sportif, mon prochain défi, j'aimerais le faire avec ma sœur.
Ouais.
Je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas sous quelle forme, mais je tiens vraiment à ce que ce soit avec ma sœur. Et le défi niveau peut-être professionnel, de concrétiser les choses que je suis en train de gribouiller sur la maternité. Voilà.
Ouais.
Je ne sais, j'ai des idées de forme. Enfin, voilà, je sens que c'est en train de maturer, de mûrir dans ma tête.
Ouais.
Alors peut-être un spectacle, mais j'en sais rien. Mais sinon, voilà, ce sera un défi 2021 de mettre ça en place.
Ouais.
Voilà, ça prend du temps, mais en ce moment, on a le temps. Donc voilà.
Ouais. Ouais, et puis c'est bien aussi d'apprendre à ralentir, tu vois. Je vois, c'était mes enfants maintenant qu'on vit à Marseille, ils ont pas cours le mercredi matin. Et donc là, bon là, on enregistre, on est le 18 décembre et mercredi matin, j'avais plein de choses à faire, mais j'étais fatiguée, donc j'ai traîné dans le lit avec ma fille en faisant un câlin avec elle. Enfin, c'était le kiff, quoi. Et mon mari me dit, mais tu t'imagines même pas comme ça me rend heureux, en fait, de te voir là, détendue, pas stressée, de devoir aller bosser, enfin, vraiment en mode t'es sereine, alors qu'avant, bah, j'étais une machine, quoi. Et du coup, ouais, c'est savoir apprendre à, même si on a souvent nos petits démons et nos petits travers qui reviennent quand même, mais c'est apprendre à prendre ce fameux temps, quoi.
Ouais. Après, je pense que le confinement, ça nous a quand même, autant le premier était mieux vécu.
Ouais.
Mais du coup, parce que du coup, on se dit, ah, trop bien, la slow life, on va faire notre pain, enfin, non, mais tout le monde s'est mis à faire des pains et des bananes à bread. Mais moi incluse, hein, j'ai aussi fait mes petites photos de bananes à bread et de brioches ratées. Mais en fait, t'avais envie de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai planté des graines. Enfin, de dire, bon, bah, en fait, quand j'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Je lis, je prends le temps de regarder plein de films que j'ai pas eu le temps de, avant, enfin. Et alors que là, le deuxième, c'est plus compliqué, je pense, à vivre pour tout le monde, parce que là, on commence à voir vraiment les répercussions que ça peut avoir sur le long terme aussi. Et je pense que ça va être très très compliqué après pour beaucoup de métiers, de domaines, et avec la précarité que ça va engendrer. Donc, je pense que après, j'ai envie de rester optimiste en me disant, il va y avoir de la résilience. Et il va y avoir de la solidarité, peut-être comme on n'en a jamais connu.
Ouais.
Parce que on sera obligé d'être... on peut pas être insensible à tous les gens. Là, j'habite en face d'un centre du secours populaire, mais la queue qui s'agrandit, en plus avec des profils qui n'ont pas l'habitude de voir, des jeunes, des moins jeunes, mais... De toutes les catégories socio-professionnelles et qui ont perdu leur boulot et que, enfin, tu te dis, bah ouais, tout peut s'effondrer.
Ouais.
Et en fait, faut aider son prochain, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, moi, je pense qu'il faut ramener de l'humain dans tout ça parce que sinon, on va pas s'en sortir.
Ouais, de l'humain et puis aussi se dire que apprendre à consommer différemment, c'est revoir aussi ses priorités et sa façon de vivre, en fait, s'adapter, se dire, bah, ouais, il y a un mauvais moment à passer, et puis en fait, c'est savoir se décharger de choses qu'on faisait avant et qui nous rendaient finalement pas plus heureux, en fait.
Mmh. Oui, mais alors je rebondis sur ce que tu dis, d'apprendre à consommer différemment. Enfin, là, c'est flippant parce que là, toutes les boutiques sont ouvertes pour qu'on consomme pour Noël. Ouais. Et à côté de ça, moi, ça me rend malade de voir les théâtres et les cinémas fermés.
Ah, enfin, ouais.
Du coup, tu dis, en fait, de nous considérer comme non essentiels. Mais en fait, j'ai envie de pleurer parce que déjà de catégoriser les gens, je voyais une vidéo de Marina Foïs hier. Comment peut-on catégoriser les gens et l'humanité en essentiel, non essentiel. Elle disait ça hyper justement. Et ouais, c'est pas, enfin, c'est l'humanité. Enfin, on vaut bien mieux que ça d'être dans des cases. Et surtout, enfin, je trouve, bah voilà, là, ça a bien, on a bien vu. Bon, bah, on nous encourage à consommer, évidemment, d'acheter sur Amazon et de faire ses courses. Je sais pas, dans les Galeries Lafayette ou n'importe quel centre commercial. Ça va, oui, peut-être que ça va plus rapporter d'argent qu'effectivement ouvrir les théâtres et les cinémas. Mais je trouve que, enfin. Ouais. Les acteurs, les comédiens, les artistes, les chanteurs, enfin toute cette catégorie-là, enfin on a toujours, je trouve, été essentiel dans la vie parce que les gens ont besoin aussi d'écouter des histoires, de se divertir, d'être émus, de sortir de leur quotidien, de rêver, de réfléchir, de, enfin il y a tellement de choses derrière tout ça, je comprends pas, je suis complètement scotchée par ces décisions, enfin je.
C'est Jean Dujardin qui a posté une photo sur Instagram qui a été pas mal ripostée, où il y avait, en gros, on voyait des gens dans un avion tous collés, et puis une salle de spectacle vide. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah, enfin, sans faire de politique. Ouais.
Ouais, mais oui, non, mais c'est quoi?
L'avion, tu vas y rester 6 heures, 12 heures.
Je comprends pas, ouais. Dans les TGV, c'est pareil. Tu te dis, mais non, mais on vit où? Enfin, je comprends pas ce choix.
Surtout en plus, tu vois, moi, j'ai pris le TGV, j'ai pris beaucoup, beaucoup le TGV aux vacances de la Toussaint. Donc, on avait déjà les masques à cette époque-là. Sauf que, bon, bah, quand tu fais un trajet de 6 heures ou que tu fais un trajet au moment de l'heure du déjeuner, bah, tu vas enlever ton masque pour manger, en fait.
Ouais. Donc, non, mais en plus, dans les théâtres, c'est là, c'est les lieux les plus sécurisés où tu gardes ton masque, t'es à distance, enfin, les cinémas aussi, hein. Je suis complètement, je sais pas quoi dire, les mots me manquent tellement, je ne comprends pas, et on est en train de tuer la culture, hein, clairement. Ouais. J'ai beaucoup d'amis comédiens qui s'en remettront pas, et j'ai beaucoup d'amis comédiens qui avaient des projets. Enfin, en fait, c'est couper court à tout. C'est vraiment très très difficile.
Ouais. Pour finir sur une petite note positive, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Oh, à tellement de gens. Oh là là. Je dois choisir que une personne?
Ah non. Moi, on est généreux dans les remerciements. Je sais pourquoi pas moi.
Bah déjà. Déjà merci à toi pour cette interview parce que c'est vrai que tu m'as fait réfléchir, c'est des questions que je me pose pas tous les jours, tu vois, sur la petite fille qui se demande, enfin voilà, donc merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer. Je vais faire comme à la cérémonie des Césars, hein. Alors j'ai pas assez de temps, donc merci à ma famille, merci à mes parents. Non mais honnêtement il y a beaucoup trop de monde que j'aimerais remercier. Enfin vraiment merci. Bah ouais, merci à ma famille. Je dirais merci à mon père qui m'a dit non et du coup qui m'a poussée dans mes retranchements, mais pour le plus grand bonheur et le côté le plus positif. Ouais. Voilà. Et puis merci évidemment à mon conjoint qui me soutient, qui me laisse vivre en fait tout simplement, qui me met pas qui croit en moi. Voilà, je dirais merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui croient en moi aujourd'hui parce que c'est hyper important. Ouais. Voilà. Et après merci à mes amis parce que j'ai un socle d'amis très proche et voilà, qui elles sont toujours là, c'est surtout des femmes et voilà, ça fait chaud au cœur. Voilà, de penser à elle, c'est marrant parce que ce que tu me demandes de faire, j'ai commencé à faire mois par mois les personnes qui avaient été importantes dans ma vie cette année.
Génial.
Et je me dis, on est au mois de décembre, on va faire une petite rétrospective.
Ouais.
Et ça, je trouve ça fait vraiment chaud au cœur de finir l'année en disant, tiens, je vais prendre un petit papier, un petit crayon. Au mois de janvier, qui est-ce qui a été important pour moi? Qui est-ce qui m'a fait du bien? Et de faire ça sur chaque mois et de se dire, oh là, tout le positif qu'il y avait.
Ouais.
Et ben, ça fait un peu clore cette année sur quelque chose de bon. Et débuter 2021 peut-être dans les meilleures conditions possibles. Mais voilà. Beaucoup, merci à tous ceux, qui m'apportent de l'amour et qui sont là pour moi tous les jours.
C'est une super idée, je l'ai noté là, en effet, de se dire quelle a été la belle rencontre et qui on a envie de remercier mois par mois. J'ai interviewé Pedro Correa, je ne sais pas si tu le connais. C'est un homme qui gagne, enfin qui est déjà assez connu et qui gagne à être encore plus connu. Il était ingénieur, il est devenu photographe. Et l'élément déclencheur, en fait, c'est qu'il a perdu son papa du jour au lendemain. Et du coup, lui, sa peur à lui, c'est de gâcher sa vie, en fait. Et il y a pile poil un an, il a fait un discours dans son ancienne université et qui a été vu plus de 10 millions de fois sur YouTube. Et cette vidéo, moi je l'ai vue il y a un an et je crois que j'ai pleuré en la voyant. Et du coup depuis cette vidéo, il a fait un TEDx, il a écrit un livre là qui vient de sortir. Et d'ailleurs je vais diffuser du coup l'épisode le 31 décembre parce que je trouve que c'est un formidable signe d'espoir pour cette nouvelle année qui va arriver. Et en fait, je posais du coup la question que je pose à chaque interviewé qui est quel enfant tu étais, et toi c'était drôle parce que tu m'as répondu faudrait demander à ma maman, et en fait lui me disait que il posait cette question chaque année à ses enfants et il notait ça sur un petit cahier. Et du coup, j'ai eu l'idée en fait de créer un petit cahier, le cahier pour écouter ta petite voix, à offrir aux enfants. Et l'idée, c'est de se dire en fait que chaque année, on colle la photo de l'enfant à ce moment-là. On écrit son âge et en dessous, on écrit ce qu'il aime et de ce dont il rêve. Et en fait, je suis convaincue que ça va dessiner finalement la mélodie de leur petite voix. Parce que ce qui revient il y aura forcément des choses qui reviendront chaque année et qui correspond à ça. Et je me dis, c'est aussi l'occasion de passer un petit moment un peu privilégié avec les enfants pour savoir ok c'est quoi ce que t'aimes maintenant et puis surtout ne pas les freiner parce que tu vois il disait Pedro que son fils aîné lui a dit qu'il voulait être dessinateur et alors que son fils aîné je sais plus quel âge il a mais il est pas très très vieux hein. Et son ex-femme a dit à leur fils non mais dessinateur c'est pas sérieux tu pourrais peut-être faire un métier un peu plus sérieux et c'est fou de voir comme dès tout petit, on ancre des choses dans la tête des enfants et tu vois, il y a une personne que je suis également dans le chemin qui disait que elle a toujours rêvé d'être dessinatrice et puis à force d'avoir entendu ses petites voix parasites de dessinateur, c'est pas sérieux. À 18 ans, elle s'est dit ok, je vais devenir architecte parce que du coup il y aura du dessin, mais c'est sérieux comme métier. Finalement, elle s'est fait rattraper par sa petite voix et aujourd'hui elle est illustratrice quoi.
Mais c'est fou, les conditionnements et puis d'apprendre à se libérer de toutes ces croyances limitantes en fait, parce que des petits, on nous limite, on dit non, faut que tu sois dans le chemin, dans le droit chemin. Ouais. Enfin, ouais, mais c'est bien, hein, c'est bien cette idée de cahier.
Merci. merci. Et un immense merci Valérie. Et puis j'ai hâte de
merci
savoir la
toi.
Suite pour toi. Et puis je te dis du coup à très vite.
Oui, merci beaucoup.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Curieux de voir la courte captation vidéo du spectacle de Valérie, je vous l'ai mis sur le blog pourquoipasmoi.co. Curieux d'en savoir plus sur les petits cahiers dont je vous ai parlé, vous pouvez aller sur le site pourquoipasmoi.co et découvrir la boutique. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un homme exceptionnel, avec un parcours hors norme. Des forces spéciales à sophrologue. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?